Salut tout le monde, salut Chichi, François et Alex, on se retrouve aujourd'hui pour un gros talk sur comment travailler son poker de façon efficace. Je vais vous présenter rapidement tous les trois. Chichi, vous le connaissez, j'imagine un petit peu si vous nous suivez sur Kill Tilt, joueur pro, notamment en cash game entre la 100 et la 400, et qui a aussi énormément coaché, qui intervient pour la masterclass Progresser au poker en cash game. François, toi, t'es joueur pro Winamax, t'as été gagnant Top Shark en 2021 et t'as re-signé un an de contrat maintenant. Tu joues, je sais pas l'ABI que tu joues en tournoi, mais ça c'est devenu très élevé, je crois, dans les derniers mois, non?
Bah, je sais pas, c'est très élevé, mais c'est entre 200 et 300. Enfin, ça dépend.
Pas mal.
Qu'en pro qu'online. Pro live, ça vaut beaucoup plus cher, mais bon, ça, c'est pas pareil.
Et du coup, tu fais plus de live, t'en as pas tant fait que ça, je pense, au début de ta carrière, ou en tout cas moins, c'est ça?
J'en faisais pas mal avant le Covid. Enfin, l'année juste avant le Covid, je m'étais dit non, je vais me concentrer online. Après, il y a eu le Covid, donc du coup, ça continue online. Et après, bah, depuis que je suis Team Pro Winna, là, il y a beaucoup plus de live cette année. L'année dernière, il y avait toujours un peu le Covid, donc j'ai fait que Vegas. Et du coup, cette année, là, ça reprend. Il y a eu Prague, il y a eu Madrid, il y a eu Monaco, il va y avoir Vegas, Bratislava, Barcelone, tout ça.
Ok, tout ça, très tout bien. Ça. Et donc, toi, Alexandre Réard, joueur pro depuis environ 7 ans, t'as rejoint un sponsor Unibet, rappelle-moi quand exactement?
En 2017.
2017. Et tu as gagné notamment, il faut le souligner, un bracelet WSOP sur un 5000 en novembre 2021. Vous savez, pour ceux qui regardent le top plus tard, il y avait eu exceptionnellement les WSOP en novembre avec décalage Covid. Et tu es connu, mais en fait, François aussi, vous avez une approche assez structurée, carrée, disciplinée de la performance. Et c'est quelque chose qui vient de plus en plus dans le poker, donc on aura l'occasion d'en reparler. Donc écoutez, on va partir dans ce talk sur qu'est-ce qui peut aider particulièrement l'audience Kill Tilt, mais n'importe quel joueur de poker, à progresser de façon efficace. Mon point, mon angle, on va dire, je vais partir de deux choses simples, et évidemment ça se complexifiera au fur et à mesure du talk. Mais le but, c'est en gros que tout ce que vous fassiez pour progresser au poker, ça ait le plus d'impact et aussi rapidement que possible, pour monter en puissance assez rapidement. Le constat, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs soit qui ne travaillent pas leur jeu, soit quand ils le travaillent, c'est trop décousu, donc ça ne paye pas. Soit même s'ils travaillent irrégulièrement, ce qui n'est pas très fréquent, ça ne paye pas parce que c'est, même si on travaille son jeu 2 heures par jour et qu'on le fait de façon éparpillée ou de la mauvaise façon, ça ne paye pas nécessairement, très loin de là même. Donc l'idée, c'est de vous donner des clés pour tout ça et que le travail que vous fassiez sur votre jeu, vous trouviez un bon équilibre entre plaisir, pour que ça soit tenable sur le long terme, du coup régularité, et que ça paye, sachant que malheureusement avec la variance, parfois vous pouvez bosser comme un taré, monter en compétence, et que ça paye pas du tout dans les mois qui arrivent. Ce qui d'ailleurs est une entrave à la motivation et donc à la progression. Donc je vais commencer, alors moi dans mon ordre de caméra c'est Chichi, mais je vais pour cette première question m'adresser à toi Chichi. Qu'est-ce que c'est selon toi une des plus grosses erreurs que tu vois chez les joueurs de poker qui veulent progresser efficacement, on va dire pour un joueur qui est amateur confirmé, qui consacre au moins 10-15 heures par semaine au poker. Je parle de grind, hein, tout mélangé, enfin grind et travail mélangé. Enfin, quel type d'erreur les joueurs font quand ils commencent à vouloir bosser leur jeu, progresser, monter en compétences?
Des erreurs, il y en a plein. Je vais dire les erreurs un peu classiques, en tout cas celles qui me reviennent souvent. Déjà, l'une des premières, c'est je pense qu'ils s'éparpillent sur trop de formats. Ça, c'est quelque chose que je vois souvent. J'ai plusieurs joueurs qui me disent, même qui me demandent des fois, qu'est-ce que je leur conseille de jouer? En fait, moi, je ne peux rien conseiller à personne. C'est juste, prends le format que tu aimes le plus et concentre-toi que là-dessus. Une fois que tu auras atteint un bon niveau, tu pourras, par exemple, faire du cash game, faire du tournoi, etc. Mais au début, c'est bien de se focus que sur un seul format. C'est déjà extrêmement dur de devenir bon dans un format. Alors, si on veut être dans plusieurs, c'est compliqué. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, la deuxième chose, c'est en fait, la durée de travail, comme tu l'as dit, ça ne veut pas dire grand-chose parce qu'il y en a, ils vont dire je travaille 3 heures, 4 heures, d'autres 1 heure, mais il vaut mieux travailler moins et de façon très efficace et structurée que s'éparpiller sur plein de choses et finalement, tu ne vas rien retenir. Et ce que je dirais, notamment pour les joueurs qui sont en micro-limite, c'est essayer de travailler les spots qui vont te générer le plus de V. C'est-à-dire qu'au début, on voit des joueurs vouloir travailler, par exemple, je ne sais pas, les pots 3 bêtes, les pots 4 bêtes, mais je ne sais pas si tu es en L10, à mon sens, pour le moment, les pots 4 bêtes, clairement pas. Ça sert pas à grand chose parce que en plus, ils vont travailler que ces spots-là contre les joueurs réguliers. Donc, ok, à la limite, ils vont gratter quelques petits big blinds par-ci par-là. Alors que par contre, tu as des dizaines et des dizaines de big blinds à aller chercher dans d'autres situations qui sont beaucoup plus récurrentes. Et ça, c'est important aussi d'essayer de travailler en priorité pour moi les spots qui sont récurrents et pas les spots marginaux que tu vas peut-être rencontrer une fois, les deux fois max par session et encore des fois zéro. Donc, je dirais ça. Le premier, c'est focus sur une discipline et s'y tenir. Et là, pour le coup, c'est que le plaisir. Tu prends la discipline qui te plaît le plus.
Le format de
Tu
jeu,
vas
tu veux
à
dire
fond.
quoi, enfin, ouais.
Ouais, le format de jeu, voilà. Et ensuite, essayer de travailler les choses qui sont récurrentes pour aller gratter le plus de big blind en essayant de maximiser son temps de travail, quoi.
Alors, on parlera, si vous voulez intervenir, justement de quelles sont les choses qui sont les plus pertinentes à travailler en premier. Petit spoiler, en général, c'est autour des ranges pré-flop, hein, mais on détaillera peut-être un petit peu ça plus tard, François, et après, du coup, Alex. François, toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu vois comme très grosses erreurs qui sont faites lorsque les gens se disent, ah, allez, tiens, je bosse mon jeu, en termes d'efficacité, d'organisation, ou tout simplement d'autres paramètres?
Bah déjà, ouais, avec enfin, ce qu'a dit Chichi, c'est super, quoi, déjà. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qui, des fois, enfin, en fait, c'est parce que ça les excite d'aller bosser un pot 3-bet ou pot 4-bet, alors que, comme tu dis, enfin, plus un MTT, enfin, j'allais dire MTT parce que c'est plus ce que je connais, mais enfin, ça doit être pas dans le cash game où on est en expresso. Mais juste les ranges, en fait, ça rapporte, ça ramène plein de V, juste savoir à peu près ce qu'il faut ouvrir au bouton. Et ensuite, bosser des spots plutôt bouton bébé, enfin, des spots plus récurrents. Ça, c'est vraiment la base. Bon, après, il y a bien sûr la gestion de bankroll. Et puis, pas jouer, enfin, jouer dans des conditions où on n'est pas complètement mort ou bourré ou j'en sais rien. Enfin, on voit des joueurs qui, puis, en fait, ils destroyent leur bankroll parce qu'ils se sont mis, je sais pas, ils ont fait trois soirées, ils ont fait une soirée bourrée, ils ont été joués. Enfin, être assez discipliné, on va dire, au niveau de ce qu'on veut, une fois qu'on a trouvé le format, le bosser. Et une autre erreur qui peut venir, j'allais dire sous-estimer l'aspect mental, parce que pour moi, il y a des joueurs qui vont très bien réussir au poker sans avoir, enfin, qui vont monter les limites sans avoir besoin de bosser trop leur mental. Bon, après, il y a un moment, quand tu veux, souvent, tu es obligé. Mais il y a des joueurs, moi notamment, par exemple, ou si j'avais pas bossé le mental, j'avais trop de leaks pour pouvoir vraiment progresser au poker si j'avais pas bossé le mental. Donc il y en a, il ne va pas y avoir besoin jusqu'à un certain temps, ils vont pouvoir monter très haut sans bosser le mental. Et d'autres où je pense que ça vient plus tôt. Donc par exemple, enfin, des joueurs comme moi qui avaient peur de faire des erreurs, prise de risque, gestion du titre, enfin beaucoup de choses, confiance en soi, tout ça, s'intéresser quand même un peu à ça. Si on voit qu'on passe des heures et que in-game, par exemple, on n'est pas le même niveau de jeu ou des choses comme ça que ce qu'on a en review. Donc, je sais pas si j'étais très précis, mais j'ai pas fait un point 1 et 2 comme Chichi. Mais
Non,
voilà,
c'est
donc je
super.
dirais, pensez au mental, pensez aussi, comme a dit Chichi, quels sont les spots de V. Des fois, c'est moins intéressant. C'est sûr que c'est plus excitant d'aller réfléchir à un spot de check raise river ou j'en sais rien, mais en fait, si tu veux progresser, en fait, ça dépend aussi pourquoi tu joues au poker. Si c'est juste pour t'amuser ou quoi et que t'es pas dans une logique de progression, mais bon, là, le talk, c'est pour progresser. Donc, si le but, c'est de progresser, va falloir faire des trucs qui sont moins sexy, mais en fait, qui font progresser. Et il y a un truc, par exemple, qui est intéressant, c'est si on regarde un tournoi d'il y a 6 mois, si on ne voit pas de trucs nouveaux, on ne voit pas d'erreur, mais c'est qu'il y a un souci, c'est qu'on n'a pas assez bossé ou quoi, qu'on n'a pas assez progressé. Normalement, quand tu regardes 6 mois en arrière, bon, ça dépend du volume que tu fais, mais normalement, 6 mois, c'est déjà pas mal. Si t'as pas progressé, enfin, si tu regardes le tournoi et que tu vois pas des petits trucs, c'est qu'il y a un souci. C'est, enfin, t'as pas assez progressé.
Normalement,
Et
t'es censé être choqué par le toi-même d'il y a 6 mois ou d'il y a un an en disant waouh, putain, je faisais ce genre de conneries avant,
alors,
c'est fou.
choqué, je sais pas.
Ouais, pas choqué,
Mais
mais
en
en tout
tout
cas, ouais,
cas,
te dire oula,
ouais, il
je
y a pas
jouerai pas
mal.
comme ça aujourd'hui.
C'est
En tout
ça,
cas,
ouais.
ouais.
C'est ça, ouais. Donc,
Ok,
une
ça
des
marche.
erreurs, voilà, c'est ça. Et pas bien s'entourer aussi. Enfin, bien s'entourer, c'est hyper important
Ouais, bien sûr.
au
Alors, on
poker. Mais
abordera ça
bon, je vais laisser
en
un peu la
tantôt.
parole à
Ouais, vas-y,
Alex, sinon
Alex.
je vais.
Ouais, je pense que ce qui est important dans un premier temps, c'est de définir nos objectifs. Après, ensuite, avoir une stratégie par rapport à ça. Et avec cette stratégie, vraiment réfléchir à quelque chose de. Bon, vous l'avez dit, hein, mais des choses simples. Et surtout, d'éviter d'aller dans tous les sens, quoi. Quand on arrive, on a envie de travailler le jeu au bouton, le jeu UTG, le jeu en bébé, enfin voilà, et on ne sait pas trop où aller. Surtout, bon, je parle pour les MTT, pareil, c'est un peu différent en cash game, et c'est un peu différent encore dans les autres formats, mais on a plein de blocs différents à travailler. Donc là, c'est pareil, vraiment avoir une idée claire et précise de ce qu'on veut bosser dans un premier temps, et s'attarder sur une durée pour travailler ce temps-là, enfin ce spot-là typiquement quoi, et pas dire ouais dans la semaine je vais faire du bouton, de l'UTG, du machin. Je pense que c'est le meilleur moyen pour un peu s'embrouiller, c'est mon avis. Et ça permet en fait quand on fait ça aussi de pouvoir mettre en application dans des thèmes qu'on pourrait mettre pendant nos sessions en fait quoi. Donc si on a bossé le jeu bouton par exemple et qu'on a retenu certaines choses, bah très bien, on peut se dire ok, bah aujourd'hui mon thème c'est ça, et on le met en application. Et ça permet deux choses. Ça permet donc de réviser en mise en pratique, et donc l'autre chose à faire aussi à côté, c'est surtout de réviser, mais même en dehors d'étape, quoi. Je pense qu'on ne le fait pas assez. Moi, le premier, d'ailleurs, c'est un de mes gros leaks, c'est un de mes objectifs de début d'année, c'est de réviser beaucoup plus souvent des choses que j'ai vues. Parce que, bon, ça, c'est après, on va rentrer dans un autre débat qui est le mental, mais si on n'est pas capable, quand on a vu quelque chose, de l'assimiler et de le mettre en connaissance inconsciente tout de suite, non, pas du tout. Donc, il faut vraiment le retravailler et pouvoir avoir une idée précise de ce qu'on veut faire, quoi.
Donc l'idée, c'est que quoi, quand tu commences à maîtriser une compétence, ok, sur le papier, quand tu es en train de bosser, ça te paraît clair, mais il faut pouvoir le sortir à la table en direct quand on a besoin, et donc répéter le truc jusqu'à ce que ça rentre comme un automatisme. Hein. C'est ça que tu
tout
dis.
À fait.
Les gens, en général, réalisent pas ça, quoi. C'est ça que tu dis.
Bah, ils l'oublient. Enfin, ils vont l'oublier. Ils vont dire, ok, c'est bon, je sais. Et en fait, ils le mettront jamais en application. Ou alors, ils vont peut-être pas assez le mettre en application pour que ça redevienne une compétence vraiment inconsciente, ouais, et qu'ils le fassent de manière automatique. Voilà. Et je pense que c'est vraiment c'est super important, à mon avis, de pouvoir réviser, de se mettre des créneaux. Ça, c'est vachement important aussi, des plannings, genre un planning avec des horaires bien fixés qui nous permettent justement de mettre ce temps de révision en pratique et de revoir ces différences. Ouais. Bon, après, on va peut-être rentrer un peu trop dans le profondeur, mais dans son premier temps, mais ouais, en tout cas, ça.
Je voulais rebondir sur un truc, parce que je suis complètement d'accord sur le fait que c'est très important. Donc, tu as parlé des objectifs, et là, notamment de structurer, tu vois, nos objectifs de travail, du coup, de se fixer les thèmes. Moi, ça, je pense, c'est ultra important. Et ça peut même aider aussi à prendre encore plus de plaisir. Par exemple, moi, je sais que, imaginons, cette semaine, je me suis fixé un thème. Et comme tu le dis, bah, j'arrive dans un spot et je retrouve ce thème ou cette situation.
T'es content.
Ouais, exactement. T'es trop content. Ah, t'es en mode, OK, ça, je l'ai bossé, c'est bon. Maintenant, je vais l'appliquer. Et en fait, du coup, tu te fixes des petits objectifs. Et du coup, tu as des petits kiffs dans la session qui n'ont rien à voir avec ton résultat ou quoi, mais purement sur ce que tu as vu avant, etc. Et ça, je pense que c'est extrêmement important en termes de notion de plaisir et de compréhension du jeu.
Et ça va engendrer autre chose, ça va engendrer de la confiance qui va être un peu genre séparée des résultats, justement. C'est-à-dire qu'à la fin de la session, bah, on peut perdre de l'argent, mais on s'est aperçu qu'on avait mis des thèmes en place et qu'on avait vu des choses et qu'on les a mis en application. Aujourd'hui, on a la chance, bon, pareil, je ne sais pas après le futur de l'émission, ce qui va être vu ou pas vu, mais aujourd'hui, on a la chance d'avoir des solveurs qui permettent de comparer un peu ce qu'on a vu et d'avoir des certitudes. Et si on a fait ça, on peut gagner en confiance là-dessus, quoi, tout simplement.
Exactement. Même juste demander à d'autres joueurs, si on a d'autres joueurs avec qui on discute, parfait, régulièrement, l'entourage, lever les doutes, c'est hyper important pour le poker, particulièrement quand on est dans un don. Généralement, on a tendance à être moins sûr de soi. Enfin, oh, ça dépend de la taille du don et de la personne, à quel point elle gère le don. Mais ouais, c'est important encore plus dans ces périodes-là de partager ou bien d'utiliser, de vérifier avec des solvers ou des choses comme ça.
Même quand tu runs Jésus, c'est important, ouais, aussi, parce que des fois, là, tu as cet autre défaut de surconfiance,
ouais,
et tu peux avoir d'autres leaks qui vont être, qui peuvent être aussi totalement dévastateurs, parce que bah, quand la courbe va s'inverser un petit peu, là, ça va être beaucoup plus. Tu vas avoir du mal à comprendre pourquoi, mais ça marchait avant, pourquoi là ça marche plus, et alors qu'en fait, bah, c'était la variance, ça fait partie du jeu, quoi.
Ce que disait Mika aussi tout à l'heure, je pense à juste titre, c'est qu'on s'en fiche un peu du temps qu'on a passé à travailler, quoi. Moi, personnellement, je suis pas un très gros bosseur, contrairement à ce qu'on peut croire. Par contre, je bosse régulièrement et je pense que c'est vaut mieux faire ça que genre bosser à fond d'un coup, quoi, genre et rien faire derrière. Donc je bosse pas beaucoup, mais je bosse souvent, quoi.
Et surtout, bosser efficacement, c'est le plus important, ouais, en final. C'est ça.
J'allais rebondir sur ça, justement. Vous avez abordé plein de points qu'on détaillera plus tard. Et évidemment, il y en a d'autres, mais vous avez mis les principaux. Il y a un truc qui me frappe beaucoup aussi. Là, je parle peut-être un peu plus d'un public débutant. C'est des gens qui font rentrer dans la catégorie « bosser leur jeu ». Des choses qui sont à moitié du divertissement, c'est-à-dire écouter les bad beats de leurs potes sur Discord, run vite fait une petite simulation Equilab pour à moitié solve un spot, regarder des émissions de poker ou des streams en disant « ouais, je bosse un peu mon jeu, mais en fait, c'est pas du tout carré ».
Ça peut être le côté un peu, j'appelle ça le côté passif, quoi, si tu veux, passif ludique et qui donne un peu de kiff aussi, quoi. Donc c'est important, mais c'est pas le plus productif, ça, c'est sûr.
Si t'as que ça, et moi je vois beaucoup de joueurs qui ont un peu que ça, bah ils se retrouvent avec des miettes de morceaux, de concepts d'un streamer, d'une vidéo, d'un machin, mais comme ils ont jamais vraiment pris un temps très concentré, focus, seul, parce que je sais pas ce que vous en pensez, mais on a beau dire l'entourage et tout, et moi le premier, c'est méga giga important. En tant que joueur de poker, on est quand même seul la plupart du temps. Déjà, quand on grind, hein, y a pas un pote qui nous parle, il faut être vraiment focus. Il faut transposer un peu de ça hors des tables. À un moment, bah, on est seul devant Equilab, Pio, ICMizer, Hold'em Resources ou je ne sais quel outil. Et on est là en train de dire, OK, quel est mon range d'open à telle profondeur contre telle personne? Et il faut prendre le temps d'essayer de solve le truc par soi-même. Et beaucoup de gens, à un moment, fuissent, on va dire, cet exercice. Parce que c'est vrai que c'est peut-être pas le plus fun, mais comme a dit Chichi, je pense que c'est vachement important de relier cet exercice-là avec nos objectifs de session pour transposer la théorie de la pratique et justement au table se dire, bon, là j'ai passé peut-être 30 minutes, je me suis un peu ennuyé à bosser tel spot d'open, au bouton, telle profondeur, mais je sais que ça va arriver dans ma session du soir en tournoi. Et boum, on est un peu plus alerte, ça met du plaisir, donc de la motivation, donc de la régularité, et on met en place un système qui est tenable aussi. Je vois beaucoup de gens, comme l'a dit Alex, qui se mettent souvent en début d'année ou en septembre à la rentrée ou après un gros bad run ou une démotivation, ils disent « Allez, je me mets un coup de pied au cul », c'est le fameux « les bonnes résolutions », quoi. Et ça dure, allez, même un mois, deux mois, ça sert à rien si derrière ça dure pas, en fait. Donc, il vaut mieux faire lentement, mais sûrement. Du coup, il y a quelque chose qui me frappe aussi, c'est le peu d'heures qu'en général on consacre à bosser. Et vous déjà, petite question, qu'est-ce que vous conseillez? Alors là, mettez-vous dans la peau, voilà, de quelqu'un qui va consacrer entre 15 et 25 heures de poker par semaine. On va dire qu'il n'est pas full-time dessus, a priori. C'est déjà énorme, mais bon, voilà, il est peut-être étudiant, célibataire ou personne à mi-temps. Il a le temps, il fait 15-25 heures de poker par semaine. Il y a beaucoup de gens qui me demandent, qu'est-ce que tu conseilles en termes de ratio grind temps sur le jeu? Est-ce que vous êtes en mode bah, faites moite-moite, faites comme vous voulez, faites par phase? Qu'est-ce que vous faites? Bah tiens, Alex, je vois que tu veux remonter.
Ouais, moi, je trouve que c'est vraiment très dépendant de beaucoup de choses. Typiquement, si tu commences à jouer et tout, bon, tu vas avoir un premier apprentissage où tu vas apprendre beaucoup. Hein. Quand tu commences une discipline, peu importe laquelle, on a une évolution qui va être très rapide au départ et puis après, tu vas stagner. Et c'est là où je pense que les gens font la différence. Quoi. Soit on arrive à gratter les petits EV, soit on stagne et on s'amuse moins aussi. Et du coup, on repère en motivation et ça va avec. Quoi. C'est un peu un tout, je pense. Le fait de jouer, c'est un énorme apprentissage. Au tennis, si tu veux envie de jouer au tennis, tu vas faire quoi? Tu vas jouer. Et ensuite, si tu veux progresser, bah, tu vas faire du coup droit. Bah, c'est un peu pareil, je pense. Je pense que quand tu commences à jouer, c'est pas si important de réellement s'instruire à fond, quoi. Il y a des choses primordiales, le pré-flop par exemple, ça me paraît être obligatoire. Et après, ça va être surtout. Et puis tu peux travailler, mais il faut travailler. C'est pas tu peux, il faut travailler. Mais je pense que le jouer plus que travailler est plus important dans un premier temps, je pense. Bien sûr. Ensuite, je pense que ça va être le contraire. Et au fur et à mesure qu'on va vouloir approcher le haut niveau, il va falloir, à mon avis, un peu plus travailler que jouer. Voilà, c'est mon point de vue. Et donc, j'ai pas de pourcentage de temps à répartir, mais moi, en tout cas, je le ferai comme ça. Je travaille plus aujourd'hui que ce que je travaillais 5 ans en arrière, par exemple.
Quoi. Juste avant de donner la parole à François, est-ce que tu penses par phase? Ça me refait penser à l'interview que j'avais fait avec Adrian Mateos Diaz qui disait il va avoir une énorme phase où il fait que grind, et d'un coup, quand il le sent, il va poser entre 5 jours à avoir 3 semaines où il touche pas une carte. Genre vraiment, littéralement, il lance pas un tournoi et il fait boum, il fait une sorte de bunker où il fait que grind la théorie, ce qu'il faisait pas évidemment au début de sa carrière, et il a des phases comme ça. Il y a aussi des gens qui aiment bosser un peu le même nombre d'heures toutes les semaines, et d'autres qui marchent vraiment par phase, que grind, petite pause, que boulot, que grind. Enfin,
j'aime beaucoup ça parce que je pense que tu gagnes en kiff aussi. Tu vois, quand tu arrives, t'as pas retouché une souris, t'as bouffé de la théorie pendant je sais pas combien de temps, t'as envie de jouer vraiment, quoi. Je pense maintenant, il y a un truc que j'aime moins, c'est le fait de pas mettre en application encore une fois, quoi. Je pense que c'est super important pendant des sessions de mettre en application ce que t'as appris. Donc ça me gêne un peu plus, mais après c'est encore, enfin, c'est propre à chacun. Voilà, c'est propre à chacun.
Ok, François, qu'est-ce que tu aurais à ajouter là-dessus?
Mais je suis d'accord avec Alex qu'au début, c'est beaucoup mieux de grind. Mais après, quand tu grind, tu peux aussi, enfin, faut que tu, je pense peut-être plus au début même, tu prends encore plus le temps de noter des mains si tu peux. Enfin, il faut que ton grind il te serve aussi à progresser, en fait.
Tu t'interroges pendant que tu grind.
Bien sûr, il faut. Il faut, je sais pas, si tu vois une line d'un adversaire, tu te dis, il a zéro bluff ici, ben, tu te dis, ben, attends, ça peut peut-être être une line à bluffer ou j'en sais rien, tu vois. Enfin, je sais pas, tu as l'impression que la line, ou j'en sais rien. Mais si possible, tu peux aller chercher les replayers ou des trucs comme ça et tu revois. Mais au début, je pense que ouais, bosser son jeu, ça doit être une petite partie. C'est vraiment, tu joues au début. Et ensuite, au moment où tu stagnes un peu, comme il disait là, tu commences à bouffer plus de théorie. Enfin, de théorie. Tu bosses ton jeu, mais. Pareil, enfin, c'est la même chose, le pré-flop est hyper important. Après, moi, je ne sais pas si tu disais qu'au bout d'un moment, tu inverses, sachant que tu as dit que tu ne bossais pas tant que ça, donc ça veut dire que tu joues encore moins. Tu as dit que tu passais à plus d'heures de travail que d'heures de jeu. Alex, j'étais un peu
Non,
étonné
non,
que tu
non,
dises
non,
ça.
non, non,
Ah,
non,
ok,
pas du tout, pas
d'accord.
du tout. Non, non, c'est
D'accord.
juste qu'avant, enfin, j'ai jamais travaillé mon jeu
Ouais.
jusqu'à, enfin, tu vois, genre, jusqu'à un déclic en 2017, on va dire, quoi, tu vois. Je
Ouais.
jouais, je faisais que jouer. Bah, après, je jouais beaucoup en live à cette époque-là, donc forcément, voilà. Mais c'est aussi intéressant parce que tu te mets dans des spots compliqués, donc tu essaies de réfléchir vraiment à ta propre analyse de pourquoi, le comment. Et du coup, après, j'ai l'impression que tu te mets dans les quand après, ensuite, tu règles tes ranges pré-flop, etc., bah, tu te retrouves dans des spots post-flop qui sont beaucoup plus faciles, en fait, pour
Bien
toi, parce que
sûr,
tu
bien
as déjà
sûr,
été dans les spots
bien
compliqués,
sûr.
etc. Mais
Ah oui.
et du coup, apprendre de ses erreurs sans directement dire, OK, il faut faire ça, 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 sans réfléchir réellement et juste appliquer un peu de manière bête et théorique, quoi, ça ne me plaît pas trop. Je préfère vraiment l'aspect, on joue, on fait des erreurs, on se pose la question de pourquoi est-ce que ce serait une erreur et on va vérifier si c'est une erreur. Et ensuite, on modifie par rapport à ça. Et alors, donc moi, j'ai commencé avec le live vraiment beaucoup comme ça, où je joue online, mais j'ai commencé à jouer online vraiment en 2013-2014. J'ai eu un gros déclic en 2017. Et depuis je joue.com, bon, ça s'est encore un peu inversé sur mon temps de jeu online, mais au niveau des buy-in et tout ce qui s'ensuit. Mais derrière, genre vraiment, je travaille plus maintenant, mais parce qu'avant, je ne travaillais pas, en fait, tout simplement, quoi. Je jouais. Mon travail, c'était le jeu, en fait.
Ouais, après j'entends des gens des fois qui disent qu'ils jouent pas, mais qui discutent énormément
Bien
avec
sûr.
d'autres joueurs, ou qui disent moi je bosse pas parce que dans leur tête, bosser le jeu, c'est forcément quelque chose où ils prennent pas de plaisir. J'entends, j'ai un joueur pro en tête qui dit ça, alors qu'en fait, il bouffe une tonne de revues, il regarde des
D'accord.
TF qui
Ah, mais
jouent
celle-là, c'est
de
du full boss.
Hextech,
Ouais.
mais pour lui, dans sa tête, c'est juste il prend du plaisir alors que ou il discute beaucoup de mains.
Moi, mon déclic, justement, je le donne parce que je trouve que c'est quand même important. Genre, j'avais fait le parallèle avec les sportifs de haut niveau, en fait, quoi. Et je m'étais dit, OK, les mecs comme Nadal, les mecs comme Cristiano Ronaldo, les mecs comme tout ça, je me suis dit, OK, à la base, ils sont forts. Parce qu'il y a le fait aussi de se dire, ouais, on n'a pas envie de bosser parce qu'on a envie de montrer qu'on y arrive sans bosser. Il y en a plein dans leur tête, c'est ça.
Bien
Ou alors qu'ils
sûr.
ne savent pas bosser. Il y a les deux. Il y a un peu l'ego. Enfin, moi, c'est un peu ça. Enfin, tu vois, à l'école, machin, etc. Tu as envie d'y arriver, tu ne bosses pas trop, c'est cool et tout, machin. Et à un moment, tu réfléchis, tu dis, mais attends, mais les meilleurs, ils travaillent, quoi. Il n'y a pas de débat. Si tu veux passer un cap et que tu veux être dans les meilleurs, tu vas bosser, même si à la base, tu es un peu plus doué, même si à la base, tu as machin. Non, il faut travailler, il n'y a pas de raison. Et tu dis, OK, bah, pourquoi moi, j'arriverais sans bosser alors que personne n'y arrive? Ce n'est pas possible. Donc, on travaille, quoi. Mais savoir travailler, c'est aussi, enfin, c'est encore, c'est le débat d'aujourd'hui presque, hein, parce que ce n'est pas évident, c'est vraiment pas évident.
Et du coup, Chichi, est-ce que toi, alors pas nécessairement exactement ça, si tu veux rebondir sur le temps ratio grind, travail sur son jeu ou autre chose, je te laisse la
Bah,
parole avant d'aller plus loin.
je vais, histoire de donner des pourcentages, mais qui valent ce qu'ils vaut, mais c'est plus pour donner une idée. Moi, je suis totalement d'accord. Au début, c'est 90-10, quoi. C'est vraiment tu grindes, tu grindes, tu grindes. Déjà, pour une raison toute bête, c'est que de toute façon, pour sortir des petites limites, il faut envoyer du volume, il faut grinder, il faut envoyer. Donc là, tu n'as pas le choix. Une fois que tu vas commencer à t'installer sur des limites plus hautes, que ce soit en cash ou en tournoi, peu importe, bah, c'est un peu ce qu'on disait au début, c'est-à-dire que là, les edges que tu vas devoir gratter, ils vont être de plus en plus petits, parce qu'au début, bah, au début, tu vas travailler une heure, tu vas gagner énormément, énormément de V sur plein de spots assez simples. Et après, par contre, tu vas devoir gratter, gratter cette EV. Et donc là, bah, dès que tu commences à jouer les tops, et alors les tops mondiaux, je ne parle même pas, bah là, gratter une BB de V dans ce spot-là, 0,5 BB dans ce spot-là, voire même avoir des spots des fois EV 0 et bien les maîtriser, ça va prendre beaucoup, beaucoup de temps. Donc là, tu vas être obligé d'avoir, on sera plus sur le 90-10. Et ensuite, la façon de travailler, là, je pense que c'est juste totalement personnel. Tu parlais d'Adrian, voilà, qui va se mettre à bloc, à bloc, à bloc et qui va revenir derrière. Alex, il dit que bah, lui, ce n'est pas vraiment ce qui lui convient. Il va plus bosser, etc. Mais il faut qu'il maintienne quand même du grind à côté pour appliquer. Je pense que là, c'est totalement personnel et que l'un des travaux va être d'apprendre à se connaître.
Ok,
Et ça, c'est. Je sais que François, il va énormément structurer ses semaines, etc. Voilà, Alex, c'est comme ça. Moi, par exemple, je sais que je suis plus en termes de phase de travail. Alors, ça va avec les vidéos, mais par exemple, des fois, quand je vais travailler un thème sur une vidéo, bah, en fait, je vais le poncer à fond. Et même si je fais une vidéo simple, entre guillemets, pour les débutants, moi, en fait, le truc en amont, je l'ai taffé à fond parce que je veux être capable de comprendre, de répondre à 100% des questions. Donc, en fait, des fois, je vais bosser. Ben, les vidéos me font énormément bosser d'une certaine façon également, quoi.
quelque chose que je vois beaucoup comme étant négligé, et notamment, je l'ai abordé, on va faire la transition ça, sur la problématique du plaisir, parce que, alors, je sais pas si c'est très français, mais en tout cas, moi, j'entends très souvent ça, que bosser, c'est chiant. Et ça fait la passerelle avec ce que disait François. Alors, c'est moins problématique quand quelqu'un dit ah bah bosser c'est chiant, mais qu'en fait il bosse sans s'en rendre compte parce qu'il prend son kiff en faisant des reviews et tout, là c'est moins grave. Là où c'est plus grave, c'est qu'il y a des gens pour qui faire autre chose que grind, c'est chiant et qui ont vraiment du mal à avoir à un moment bosser leur jeu. Et souvent, ce que j'ai constaté, c'est des gens qui ont une image de ce qu'est travailler son jeu au poker qui est négative. Comme des gens qui disent « Ah ben moi, j'ai eu tel et tel prof de maths à l'école. » Au bout de 2-3 ans, ils décident que les maths, c'est pas pour eux. En fait, ils ont juste pas eu le bon prof ou c'était pas un bon moment dans leur vie. Et voilà, donc comment vous faites? Et est-ce que déjà, ça vous est arrivé à un moment de vous forcer à bosser sans que ça le fasse? Vous preniez pas trop plaisir, vous avez l'impression que ça ramait. Et qu'est-ce que vous conseilleriez à des joueurs pour mettre un maximum de plaisir dans leur apprentissage? Puisqu'on sait évidemment que quand on prend du plaisir à ce qu'on fait, déjà on est plus concentré, plus motivé, donc on a plus de chances d'être régulier, d'être actif, créatif et d'aller chercher des ressources. Puisqu'il y a pas quelqu'un qui sera derrière votre dos tout le temps pour dire travaille ici, travaille ça. Comment on met du plaisir dans notre travail sur le jeu et comment on fait si parfois on doit bosser un truc fondamental et qu'on kiffe pas trop? Genre passer des heures pour bosser nos ranges d'open. Voilà, donc c'est assez vaste, mais j'aimerais avoir votre réponse. Allez, commençons par François.
Faut mettre pour bosser son jeu, il faut déjà trouver qu'est-ce qui te plaît comme manière de bosser ton jeu. Il y en a, ils vont préférer, comme je disais, discuter demain avec d'autres joueurs, revue des tournois, d'autres revue des solvers. Tu disais aussi, utiliser des solvers, tu disais si des fois on a dû se forcer pour bosser son jeu. Moi, j'ai plus des fois dû me forcer pour me mettre à bosser, on va dire. Genre, des fois, tu as un peu la flemme. Mais par contre, une fois que je suis dedans, en fait, je prends beaucoup de plaisir à progresser. Et si tu bouffes du contenu ou tu sens que tu progresses, moi, c'est bon, c'est good. Ça m'est arrivé, par contre, de commencer à bouffer du contenu et d'arrêter en cours parce que je me dis, mais en fait, j'apprends pas grand-chose là ou c'est, je sais pas, c'est un truc que j'ai déjà fait. Ou... Bref. Du coup, la question exacte, c'était...
Comment toi, tu mets du plaisir? Et si parfois, tu n'as pas de plaisir, comment tu transcends ça? Pour ne pas non plus complètement rater des pans obligatoires dans ton jeu qu'il faut bien affronter à un moment que ce soit.
Non, après, moi, il y a un truc que je fais au niveau de la révision que j'aime bien, c'est que, on va dire, 6 jours sur 7, 15 minutes par jour, j'ai un logiciel de flashcard. Flashcard, c'est quand tu as une question qui pop-up et du coup, tu cherches la réponse. Bon, souvent, moi, c'est des questions, ça peut être des questions de spot ou quoi. Du coup, je suis recoulable, je réponds. Et ça, je prends du plaisir à faire ça. Et du coup, je révise les spots. Donc, plutôt que te rebouffer, je sais pas, le contenu, de toute façon, quand tu te pouffes un contenu, il faut que derrière, à chaque fin de session de travail, tu prennes que tu synthétises tes notes, en fait, que tu prennes 5 minutes pour revenir à, OK, qu'est-ce qui est important que j'ai appris là-dedans? Et moi, ensuite, ce que j'ai appris là-dedans, je le fous dans ce logiciel et ensuite, je le révise, quoi. Mais si tu manques de plaisir à faire un truc, après, faut voir les objectifs. Si ton objectif, c'est vraiment de devenir meilleur et que tu veux bosser un spot en particulier, tu sais que ce spot, il te sert et qu'il y a ce travail-là à faire qui est un peu chiant. À moins de trouver une autre manière de le faire, je sais pas, va peut-être falloir le faire, ça va être peut-être un petit peu chiant, mais ou alors tu trouves une autre manière, tu le fais à deux, ou tu trouves. Mais sinon, c'est une question de méthodologie pour prendre du plaisir. Et puis ça dépend aussi, on en parlait, je me souviens lors du club poker, ce que tu aimes vraiment dans le poker. Oh non, je suis en train de déborder sur autre chose là. Je suis pas sûr que c'est très pertinent. Je trouvais la méthodologie qui te convient et pas rester fermé aussi. Parce que comme tu disais, si tu dis, je suis pas un mec qui utilise des solvers ou quoi, c'est pas pourtant qu'il faut te fermer et pas essayer. Et même des fois, si on essaye d'une manière, on essaye mal. Il ne faut pas s'arrêter, il faut réessayer. C'est pareil, si on prend du coaching, le coaching, ça se passe mal. Il faut dire, le coaching, ce n'est pas fait pour moi. Peut-être que tu n'as juste pas eu un coach qui te correspond parce que sa méthodologie, elle ne correspond pas. C'est très personnel. Comment dire, pour trouver un processus qui te convient, des fois, ça prend des mois, voire peut-être plus d'un an pour trouver qu'est-ce qui correspond vraiment à toi, ta méthodologie pour progresser. Et par contre, une fois que tu as… Mais il faut chercher, quoi. Quand tu vois que ça ne te correspond pas. Moi, je l'ai vu dans ma carrière poker, j'ai eu plusieurs points de blocage, en fait. Et à chaque fois, j'étais dans la logique de j'essaie des nouveaux trucs, en fait. Quand j'étais des blocages, moi, c'était plus mental, du coup. Mais il y a des trucs, je voyais que, je sais pas, j'arrivais pas à être assez aggro dans un spot. Et bien, au bout d'un moment, je mets un rappel, je me dis, vas-y, je vais faire ça comme action. L'action, elle marche pas. Au bout d'un mois, je mets une autre action. Vraiment, il faut trouver. Et c'est comme ça que j'ai débloqué des trucs, parce qu'au bout d'un moment, j'ai trouvé. Je finis la parenthèse. Il y a 2 ans, moi, j'ai commencé à commenter mes sessions au début, et ça, moi, ça m'a fait. Explosé par rapport à avant mon niveau de jeu in-game, alors que ça faisait 5 ans que j'étais pro, donc je mettais beaucoup d'heures qui n'étaient pas si efficaces que ça, parce que ma méthodologie, il y avait un problème in-game, et ça c'est parce que j'ai réessayé des trucs jusqu'à ce qu'il y ait le moment où ça marche. Après, il y a plein de gens, il n'y aura pas forcément besoin de faire comme ça, mais je pense qu'il faut si on essaie une méthodologie, alors il ne faut pas non plus essayer une fois, comme je disais, réessayer si on voit que ça ne marche pas pour soi, être ouvert à d'autres manières de bosser son jeu, d'autres manières de faire, d'autres manières de
pivoter, essayer encore, pivoter,
trouver ce qui se correspond,
pas se forcer pour rien, quoi.
C'est ça, ouais. Faut qu'il y ait une... Si tu te forces pour quelque chose, il faut que ce soit bien justifié derrière, on va dire, parce que tu es quand même là pour prendre. De... Enfin, il faut que ça te plaise, quoi. Il faut que derrière, tu aies le plaisir d'avoir fait ce travail, par exemple.
Ok. Toi, Alex, comment tu vois cette question, cette problématique?
Déjà, je pense que la première chose, c'est tes objectifs, quoi. Quels sont tes objectifs au poker? À partir de là, tu décides de la tâche de travail que tu vas avoir à faire. J'estime que si tu joues au poker, c'est que tu aimes le poker. Donc, il y a forcément un moment des choses que tu aimes faire au poker. Peu importe, tu vois, la façon dont tu vas les faire, mais il y a des choses que tu aimes faire au poker. Mais tu peux aimer que jouer au poker, c'est vrai. Mais tu peux du coup essayer de travailler des spots. Maintenant, il y a plein de choses qui se font avec des quiz, avec des simulations de spots, etc., que tu peux mettre en pratique et les faire de manière active plus que passive. Parce que passive, sinon, on en revient à tout à l'heure, ça ne sert pas à grand-chose. Moi, après, il y a d'autres choses aussi. Comment est-ce que tu vois ton évolution? Est-ce que tu as envie de justement travailler que tes points forts, par exemple, en tant que joueur de poker? Et du coup, en général, tes points forts, ça va être les choses que tu aimes de manière générale. Et du coup, ça va être beaucoup plus facile de travailler, mais tu vas avoir tes lacunes toujours pareil. Ou est-ce que tu as envie de travailler que tes points faibles? Et là, par contre, ça va être un peu plus compliqué parce que tu aimes moins ça, forcément. Tu as aussi la dernière chose, c'est d'essayer de travailler tout. Et du coup, comment est-ce que tu vas faire? Y a des moments où tu te sens, à mon avis, plus positif que d'autres. Les jours où ça ne va pas trop, bah ok, fais du fun, tu vois. Fais des choses où c'est plus ludique, où c'est plus cool, et prends ce temps de travail. Bah fais une review, par exemple, à un moment, tranquillement, mais toujours de manière plus ou moins active. Et les jours où, par contre, tu te sens motivé, tu te sens frais, tu as envie de bosser, bah là, tu vas un peu dans ce que tu n'aimes pas et tu lances. Enfin, encore, ce que tu n'aimes pas, il faut essayer de trouver un peu les choses qui nous plaisent, de pourquoi, justement. Et c'est là où l'objectif revient. Ok, je travaille ça me plaît pas trop, mais si j'ai envie d'atteindre cet objectif, faut que je passe par là. Ok, donc ça, tu donnes du sens en fait à
c'est les pourquoi, ton...
ouais, c'est les pourquoi, et tu t'en étais why, comme on dit, et tu donnes ton du sens du coup à ton travail, et tu gagnes du kiff comme ça, quoi. Et je partirai là-dessus.
Ok, chichi.
Je suis d'accord clairement avec tout le monde. Déjà, il faut pas oublier, et c'est la définition du poker, le poker c'est un jeu déjà. Bon, faut qu'il y ait du kiff. S'il n'y en a pas, faut arrêter. C'est pas grave. Hein. Enfin, il y a plein de gens, ils vont pas prendre, peut-être pas prendre de kiff. C'est pas grave. Il y a plein d'autres jeux. Déjà, le premier truc, c'est que c'est un jeu. Ensuite, on va intégrer la notion de travail. Et j'ai un peu de mal des fois avec cette notion de travail, comment elle est perçue globalement, parce que c'est vrai que souvent le travail, c'est vu comme quelque chose de négatif. Et moi, je suis pas forcément d'accord. Alors évidemment, si on fait un job dans la vie qu'on n'aime pas du tout, mais nous, on a cette chance de vivre de notre passion. Donc quand même, ça va être difficile de voir des points négatifs sur ce mot travail. Et le point où, de toute façon, qui est revenu et qui est le plus important à mon sens, oui, c'est la définition de tes objectifs, que ce soit ton main goal, on va dire, mais aussi tous les objectifs qu'il y a entre. Parce que s'ils sont bien construits, en fait, ok, tu auras peut-être des petits moments où tu vas te forcer, mais ils vont être quand même très, très rares parce que tu sais exactement pourquoi tu fais ça et où ça va te mener. Tu vas avancer sur le chemin. Et voilà, le point qu'a soulevé Alex, là, je suis totalement d'accord, c'est que les moments où des fois où tu es vraiment saoulé, etc., fais le truc qui te branche le plus, travaille tes points forts, parce que voilà, ça va être plus simple. Et les moments où tu es chaud, là, tu as vraiment faim de jeu, etc., va chercher les trucs que tu n'aimes pas trop, ponce-les à ces moments-là, et ce sera plus simple. Mais cette notion de plaisir, oui, elle est primordiale. Moi, je sais que j'ai déjà eu des phases de... où je travaillais le jeu, notamment quand j'ai découvert les solvers à l'époque, où je me suis mis à bosser à donf, j'avais un petit peu... Et en fait, j'ai perdu énormément, énormément de temps. Bon, par contre, ça m'a appris sur la suite à mieux travailler. Mais à ce moment-là, j'avais envie de... Dès que je jouais un spot, je ne comprenais pas, j'avais envie de le mettre dans le solver, etc. En plus, je n'utilisais pas bien le solver. Donc au final, bon, j'ai fait des trucs qui étaient totalement inutiles. Mais j'aimais bien, parce que moi, j'ai toujours été plus dans la phase aussi de... autant bosser le jeu, etc. Ça me plaît, j'ai aucun souci. Autant à des moments, grinder, ça a été plus difficile. Mais j'ai eu des périodes qui m'ont redonné la niaque. Par exemple, dernièrement, le confinement m'a donné en fin de carte de fou et je me suis remis à jouer énormément, énormément à partir du confinement. Alors, ça a aidé aussi que ça se passait très bien, forcément.
Et que les tables étaient plus soft.
Voilà, forcément, si ça ne serait passé pas bien, peut-être que bon, je n'aurais pas retrouvé cette patate. Mais voilà, ça m'a redonné faim. Et c'est normal aussi d'avoir des baisses de régime. On ne peut pas être toujours, toujours tout en haut. Il y a des moments où on va avoir très faim. Fait, et, ouais, et ces moments-là, il faut les optimiser. Et il y a des moments où on va pas avoir faim. Et là, je pense qu'au contraire, il va falloir travailler sur les à côté, comme ce que disait François. Tester des choses, voir un peu ce que font les autres, essayer, pas se dire que parce que lui fait ça, ça me convient forcément. Non, tu t'essayes, ça te convient pas, c'est pas grave, tu testes autre chose, etc. Et on en revient sur le fait de apprendre à se connaître. Et plus tu vas essayer des choses, plus tu vas voir ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, ce qui marche, ce qui ne marche pas, et tu progresses, quoi.
Et si je peux me permettre aussi, il y a ici un moment où on peut essayer de gagner en fierté propre. Et du coup, ça, par exemple, typiquement, en fin de journée, essayer de lister un peu tout ce qu'on a fait, quoi. Et le fait de le faire, le fait de l'écrire, de le faire. Après, tout le monde ne marche pas de la même manière, hein, mais c'est des tips, voilà. Quand on fait ça, bah, on regarde notre truc, on dit OK, on a fait quelque chose, on a avancé, on peut être fier de nous, etc. Et ça, c'est cool, quoi. C'est des choses aussi pareil qui permettent de mettre un peu plus de fun
Moi,
dans son truc.
j'ai un truc que je fais. Alors, et c'est pas que pour le poker, mais ça rentre dans ce que tu dis. En fait, le matin, dans ma cuisine, j'ai un grand mur où je peux écrire à la craie dessus. J'écris tout ce que je dois faire dans la journée, que ce soit poker, mes
Cool.
tâches, etc. Et en fait, à la fin, je barre. Et quand je barre quelque chose, je l'efface pas tout de suite. D'abord, je barre. Et c'est une vraie satisfaction de barrer les trucs, tu vois.
J'ai eu un coach mental qui m'a dit quoi, parce que c'est ce que j'ai fait, moi j'ai tout le temps fait comme toi. Et il m'a dit, en gros, il m'a dit, bah, il ne faut pas faire dans ce sens-là, il faut faire. Enfin, en fait, ça dépend des personnes. Moi, je suis très cartésien, donc ça me va bien, tu vois. Mais par exemple, des personnes qui sont très, genre, qui peuvent se démotiver facilement, il faut faire le sens contraire, il ne faut pas les lister, il faut juste faire à la fin de la journée et les écrire. Parce que quand tu
Ok.
listes, en fait, eux, ils vont voir le côté négatif de ce qui n'a pas
De ce
été
qu'ils n'ont pas
barré, ce que
fait,
tu n'as
ouais.
pas fait, tu vois.
Et la
Alors que.
pression.
Voilà, et du coup, ça va là, exactement, ça va leur mettre de la pression et tout. Donc ça, c'est pareil, tu vois, ça, moi, je suis comme toi, je le fais le matin, je barre, je suis content, tu vois, j'ai fait, s'il me reste des trucs, bon, ok, j'ai pas tout fait, tant pis, j'ai quand même avancé. Et ben, d'autres personnes vont dire, ok, j'ai pas fait ça, quoi, tu vois, c'est les trois trucs que j'ai, les perfectionnistes, voilà, je
Moi,
suis.
j'ai un truc comme ça aussi pour les objectifs, pour les gens qui ont des problèmes. J'appelle ça les objectifs en escalier. C'est-à-dire qu'en gros, quand je me fixe quelque chose, par exemple, le volume, je vais me fixer trois objectifs. Donc, imaginons, on part d'un mec qui fait pas beaucoup de volume, il va gagner 10 000 mains par jour en cash, enfin 10, par jour c'est énorme, par mois plutôt, en cash game, et il veut augmenter son volume. Ça sert à rien de se dire, bon voilà, je vais passer à 20 000 d'un coup. Tu fais pas 10 000, 20 000, il va se burn out. Il va peut-être le faire une fois, mais si c'est pour derrière t'effondrer derrière, au final, bah ça sert strictement à rien. Il vaut mieux se fixer un objectif que tu es à peu près, entre guillemets, sûr d'atteindre, on va dire 12 000. Ensuite, tu vas dire, ok, bah 13 000, et après tu as le gros qui va être un peu l'objectif gold, par exemple 15 000. Mais déjà, si tu fais le premier, moi, je le vois quasiment tout le temps. Tu vas quasiment tout le temps faire le deuxième. Parce que le deuxième, il est finalement pas si haut. Il faut que la marche, elle soit un petit peu plus petite et tu vas te motiver. Et tu vas dire, OK, j'ai fait le premier, je suis bien, je suis sur la bonne voie. Mais si tu fais le dernier, c'est pas grave. Tu n'as pas de frustration. Tu as quand même atteint deux objectifs. C'est déjà très bien. Alors que si tu t'en fixes un trop gros, bah, il y a un peu le même raisonnement, le même problème que ce que tu évoquais avant. Bah, tu vas juste te dire, ah, en fait, je n'ai pas réussi à l'atteindre. Et tu vas pas être satisfait de te dire, bah, j'ai quand même fait 13 000, mais j'ai pas atteint les 16 000, quoi. Et je pense que ça, c'est. Enfin, moi, je sais que c'est une méthode qui marche assez souvent, en
Ça
tout cas qui fonctionnait avec moi.
fait penser au contrat minimal dans la semaine, genre tu te dis je fais tant de trucs, mais si ça va pas bien ou bien qu'il y a des imprévus ou quoi, tu te mets un truc plus bas. Par exemple, moi je fais pas mal ça au niveau du sport. Si j'ai tôt ou quoi, je me fais une séance, je sais pas, on va dire une demi-heure. Et si je vois que des fois je suis plus crevé ou genre j'ai moins de temps ou quoi, bah je sais pas, je skip. Si je garde la routine, mais je fais un truc beaucoup plus rapide, je vais juste faire des pompes abdos rapides, ça va me prendre 5-10 minutes peut-être max. Mais je ne pète pas la routine et ça permet d'accumuler aussi de. Bah, plus ta routine, tu la répètes, comment dire?
Plus tu la gardes parce que tu
Ouais,
l'as
c'est ça. Ton cerveau, il est habitué, il aime. Le cerveau, il aime les routines. Si tu mets une. Et puis pareil, comme tu disais, si tu veux augmenter, si tu veux mettre des nouveaux trucs en place, il vaut mieux que ce soit facile au début pour être sûr de ne pas le rater. Et une fois que l'habitude est créée, là, c'est beaucoup plus facile de l'augmenter plutôt que de mettre tout de suite un truc haut qui, si tu le rates pas, tu dis oh putain, j'ai raté, mais je devais faire une demi-heure, j'ai raté 3 fois. Enfin. Ce qui est important, ouais, c'est de mettre
ce que
petit
tu
à
avais.
petit et de réussir.
Ce que tu as appris avec PMS, je suppose, c'était les histoires de tu loupes un jour, ça va, tu loupes 2 jours, c'est la catastrophe pour les routines, quoi.
Bah, dis donc, ça, c'est plus dur. Après, je pense que ça dépend aussi à quel point tu es habitué à faire certaines routines. Mais ouais, plus tu l'as. Parce que tu vois, des fois, tu as des routines, c'est une fois par semaine, tu vois. Donc, si tu rates une semaine, ça en va bien loin. Mais ouais, c'est ça. Quand tu mets une routine en place, il faut mieux la faire petite et la répéter. Que la skip, je sais pas combien de temps, pour
Totalement.
la faire bien, pas être trop perfectionniste. Vaut mieux avancer plutôt que rien faire, quoi.
Sur ce sujet, je pense que vous l'avez peut-être plus ou moins soit entendu parler, soit lu, mais lisez vraiment Atomic Habits de James
Je l'ai
Clear.
lu, moi,
En français, il s'appelle Un rien peut tout changer, je crois.
ouais. Ok.
Je suis pas sûr, la traduction française n'était pas sortie. Et de façon générale, moi, ce que j'ai fait dans la masterclass qui marche pour plein de gens, pour d'autres moins, comme on dit, on a des profils. Et moi, j'utilise ça depuis 12 ans, je pense, maintenant. C'est un tracker de vie où, en gros, ben, tous les objectifs sont mis par semaine, en fait, et chaque jour, je sais ce que j'ai à faire. Alors, il y en a peut-être pour qui ça mettrait la pression, mais ça permet que si on skip à un moment une routine, déjà, je peux prendre une petite note pourquoi. Parfois, on est vraiment malade et ça permet de pas culpabiliser, ou des fois, on a vraiment une urgence. Ça permet aussi de pas se voiler la face parfois en disant, oh, mais c'est pas grave, je ferai demain, et puis de rater trop de jours parce que tous les jours, je suis redevable envers moi-même, en fait. Et je dois noter ben, combien d'heures, moi, par exemple, ben, en ce moment, c'est depuis des années, les vidéos kill till, je note combien d'heures je fais, si j'ai fait plus, tant mieux, pourquoi. Et en fait, chaque journée qui est basique, en fait, c'est une victoire parce que je mets du vert à chaque fois que j'ai rempli mon objectif. Et parfois, on a l'impression qu'il ne se passe rien. Et ça aide beaucoup de joueurs aussi quand ils ne progressent pas, ou en tout cas qu'ils n'ont l'impression de ne pas progresser parce qu'ils bossent beaucoup. Et là, les résultats ne suivent pas. Ça, on va en parler plus tard. C'est ultra démotivant pour plein de joueurs qui disent « Putain, ça y est, cette fois, je bosse mon jeu. » Ils donnent tout et ça ne paye pas parce que bah, y a énormément de variance, particulièrement en tournoi. Et puis que parfois, on part aussi d'un ROI très faible. Donc même si on bosse beaucoup, on passe peut-être de 5 de ROI à aller 10, 15 en 3 mois. Mais bah, ça reste faible et beaucoup de variance. Et bien, bah, si pendant ce temps, on voit qu'on s'est levé à l'heure où on voulait se lever, qu'on a fait du sport, qu'on a bossé notre jeu, qu'on a fait notre volume, qu'on a bien vu notre coach, qu'on a fait notre review, etc. On se dit « Écoute, en attendant, ma machine, elle est en route, ça progresse, work in progress. Bah, peut-être là, ça ne paye pas, mais moi, je sais que j'ai fait mon taf. » Et ça permet, enfin, en tout cas, il me semble, et d'expérience avec tous les gens qui l'ont fait, de garder quand même un socle de confiance, d'autonomie et de régularité, et donc de motivation, qui permet aussi de continuer à enquiller les heures quand il faut, même si on n'a pas l'envie. Et je voulais rebondir sur ça par rapport à vous. C'est que parfois, on a trop tendance à se reposer sur le plaisir, évidemment qu'il en faut. Mais tu as dit un truc très juste, François, c'est que parfois, on attend que le plaisir soit à l'initiative et soit le moteur qui fait qu'on pose notre cul sur la chaise pour bosser. Parfois, pas du tout. On se met un coup de pied au cul et en 5-10 minutes, 90% du temps, ça vient. Donc parfois, il faut savoir faire taire sa voix et se dire « Bon, on se met juste un petit au cul, 5-10 minutes, petit coup de pied au cul. Ok, ça vient pas pour X raisons, on peut éventuellement drop. » Mais en général, une fois qu'on a mis le doigt de l'engrenage de notre review, de notre session, ça va, on est lancé, l'appétit vient en mangeant aussi, quoi. Donc il ne faut pas non plus tout le temps attendre. Ça, c'est quelque chose que je vois beaucoup avec la psychologie positive, le développement personnel et tout. On a l'impression qu'il faut tout le temps être ultra inspiré, ultra motivé, d'avoir tout le temps faim. Non, je veux dire, les meilleurs écrivains du monde, les meilleurs achievers, réalisateurs de films, c'est pareil. Au bout d'un moment, ils s'assoient, ils ont une page blanche, ils restent devant et ça vient. Tant pis, même si ça vient pas, ils forcent un peu. Mais il faut aussi compter sur les routines, l'habitude. Alors, je dis pas de vous forcer, de détester être là. Là, c'est qu'a priori, il y a un problème. Mais il faut pas tout le temps attendre d'avoir une énergie et une motivation absolument débordante pour faire ce qu'il faut. Quand on prend notre douche le matin, on s'en tape. C'est une habitude. On n'attend pas d'être giga motivé. Parfois, on a la flemme. Bah, on sait que notre journée, pour commencer, il faut qu'on se douche.
François, il est sur les douches glacées. Je peux te dire, faut de la motivation.
j'ai fait aussi pendant 6 mois. J'avoue que j'ai drop là. Mais vas-y, François, je vois que tu
m'as fait penser à un truc. C'est juste, il y a des fois, juste, on n'a pas envie, on se sent pas. Et faut pas se dire, aujourd'hui, j'ai pas envie, je vais rien faire de ma journée. Parce que des fois, ce qu'il faut, c'est juste remonter son niveau d'énergie pour ensuite faire les trucs. Donc, du coup, va d'abord, tu sais, si t'as vraiment aujourd'hui, t'as pas envie de bosser ou de jouer, fais des trucs qui te plaisent pendant 1 heure, 2 heures, je sais pas, et un truc qui te plaît. Et après, reviens. Et là, tu vas en plus être plus efficace parce qu'on est dans une bonne énergie. On apprend juste mieux, quoi. Et c'est le truc de si tu as un problème de niveau, je sais pas, 5 sur 10 et que ton niveau d'énergie il est à 8, ça va être facile. Mais si ton niveau d'énergie il est à 3, par exemple, faire du sport, quand tu es ultra motivé début de semaine, tu dis allez, j'en fais, je sais pas, 5 fois de la semaine. Si tu n'es pas du tout motivé, tu dis allez, je vais essayer d'en faire une fois. Mais en fait, ça dépend de. C'est ça, pour remonter, des fois c'est normal. Enfin, on est des humains, on est juste des moments où on a juste moins envie. Du coup, faire remonter, faire des trucs qu'on kiffe ou. Et ensuite, une fois qu'on est bien, bah là, on peut se remettre à faire des trucs plus durs.
Je suis 100% d'accord avec ce que tu as dit, en tout cas, aussi, Simon. C'est que, on est vraiment dans une. En ce moment, je trouve, quand tu parles avec les gens de manière générale, les gens ont envie de faire ce qu'ils ont envie de faire, quoi, tout le temps, quoi, tu vois. Et pour moi, c'est pas non plus la vie, quoi. C'est genre, c'est vrai que c'est dans le meilleur des mondes, on fait ce qu'on a envie de faire. Mais après, ça suffit pas, quoi. Il y a aussi les choses, des fois, on a des contraintes, c'est comme ça. Et c'est vrai que c'est un truc que j'ai ressenti dans pas mal de groupes ces derniers temps, où genre, les gens, ils ont pas envie de travailler, ou ils ont ci, ils ont là, on bloque des horaires, mais ça se fait pas. Enfin, ça me gêne un petit peu, quoi. J'ai l'impression que, oui, comme tu l'as dit, on est obligé de temps en temps de faire des choses qu'on n'aime pas, parce que c'est comme ça, quoi, en fait, tout simplement.
Si je peux me permettre, excuse-moi, je t'interromps.
Non, c'est bon, j'ai fini.
Si je peux me permettre, je vous invite aussi à lire un bouquin qui s'appelle Stolen Focus, d'un journaliste anglais qui est exceptionnel, qui s'appelle Johan Harry, je crois. Enfin, mettez Stolen Focus, c'est un très très bon bouquin. Un mec qui a étudié l'impact des réseaux sociaux aussi sur notre attention, les systèmes de gratification instantanée. Et je pense, il n'y a pas que ça, mais je pense une grosse partie aussi de tout ça, c'est qu'on est constamment attiré par des triggers qui nous poussent à l'action via une injection de dopamine, genre oh j'ai une notification, oh il y a un super gros tournoi avec un gros prize pool, du coup j'ai la motive, du coup je m'enregistre au tournoi, oh il y a tel truc qui me stimule à mort, un voyage, un machin, donc je me mets en mouvement. Et du coup, si on ressent pas cette impulsion initiale qui est littéralement en fait un jet d'hormones dans le corps qui nous donne l'impulsion de passer à l'action, on fait « Ah bah non, je ressens pas cet énorme élan de motif, donc je scrolle les réseaux sociaux, on verra plus tard. » Et en fait, on devient l'esclave de nous-mêmes et on devient, enfin, je veux dire, même dans la tradition de la culture, en fait, de la civilisation humaine, un des plus gros combats, ça a été de réussir à mettre de côté la gratification instantanée pour maîtriser un peu notre désir, nos pulsions, notre machin, ce qu'on peut appeler la discipline, quelque part. C'est-à-dire dire non à ce qu'on voudrait absolument faire dans l'instant présent pour dire « Ouais, mais je me force un peu là maintenant et j'en aurai les bénéfices plus tard, même si je les vois pas de suite. » Vas-y, François, je vois que tu bouillonnes.
Ouais, moi, j'ai un truc aussi. Non, ça va être très rapide. C'est juste se dire aussi que si toi, tu fais des choses où la plupart des gens n'ont pas envie de le faire et tu sais que ça te fait progresser, bon, en fait, tu prends de l'avance sur les autres. Tu fais les trucs que les gens n'ont pas envie de faire. Moi, je n'ai pas fait de solo pendant longtemps, et dès que j'ai commencé à m'y mettre, je kiffais pas forcément, mais je savais que j'apprenais beaucoup de choses et qu'il fallait le faire, et que je mettais des heures que des gens n'ont pas forcément, et du coup c'est ça qui m'a fait progresser.
Et je pense qu'il y a autre chose, c'est que le jour où tu tombes sur un problème, sur une adversité, sur quelque chose, quand tu n'es pas préparé comme ça, mais t'es mort, quoi. Et moi, j'ai l'impression, après, on va pas rentrer dans le sport ou quoi, mais j'ai l'impression que ça arrive à plein d'athlètes ou plein d'équipes. Voilà, t'as besoin d'avoir du répondant. Tu peux être le meilleur boxeur, mais si tu sais pas recevoir les coups, tu seras jamais le meilleur boxeur au final. Et c'est un peu pareil. Quand tout va bien, c'est facile. Mais quand ça va pas, si jamais tu te dis, OK, bon, là, aujourd'hui, j'ai pas envie, mais j'y vais, tu vas faire des downs qui vont être beaucoup plus importants que les autres où tu vas réussir à stabiliser. C'est ce que je pense.
Et puis, la notion de plaisir, elle est pas écrite dans le marbre. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on n'aime pas au début. Et après, on va prendre du plaisir derrière. Enfin, ça n'a rien à voir avec le poker, mais par exemple, moi, avant, je n'aimais pas cuisiner, quoi. Ça me gonflait, je voulais faire le minimum. Et je ne sais pas, un jour, je me suis dit, vas-y, j'ai du temps, je vais me faire un petit truc et tout. Et en fait, j'ai eu tellement de satisfaction de me dire, je me suis un peu forcé pour faire un truc, j'étais content de mon travail, j'étais content de ce que j'ai fait, que du coup, j'ai pris une passion, je suis devenu passionné de cuisine, et maintenant, je prends des cours de cuisine et je passe énormément de trucs et ça m'éclate, quoi. Et le poker, c'est exactement pareil, ou même dans le sport, il y a des joueurs qui n'étaient pas des bourreaux de travail et qui ont vu par exemple un mec comme Benzema qui a eu un mec comme Ronaldo dans le vestiaire, et en fait il a vu travailler, il s'est dit OK, je comprends,
exemple,
les meilleurs, et c'est pas, il y a pas de secret, t'es doué, mais si tu travailles pas, et les meilleurs, on le sait, ils travaillent plus que les autres, et donc en fait tu vas des fois te forcer pour bosser un point que t'aimes pas, etc., mais je pense que la satisfaction que tu vas en tirer si tu l'as bien fait, elle va être peut-être plus grande que lorsque t'as bossé un truc que t'adores, parce que en fin de compte c'était facile de t'y mettre. Et donc, la satisfaction, elle est un peu moins forte. Donc, il ne faut pas se dire, j'aime pas du tout, j'aimerais peut-être jamais. Peut-être que, OK, c'est vrai, on n'aime pas et ça ne changera pas. Mais peut-être aussi qu'en se forçant un petit peu, à un moment, on va prendre du plaisir. Ouais. Et c'est ça qui fera la différence, comme l'a dit François, par rapport au field, en fait.
Mais puis les résultats, ils peuvent mettre du temps aussi à venir, surtout au poker où la balance, elle est énorme sur le court terme. Si tu continues, si tu as un bon processus, que tu ne te mets pas en danger financièrement ou quoi, normalement, il n'y a pas de raison que. Et que tu le remets régulièrement, enfin tu le peaufines régulièrement, il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas, en fait. À moins d'avoir,
Que le système de progression soit régulier, bien mis en place, et que tu sois certain que par effet cumulé, tu grattes des pourcentages de progression sur les compétences fondamentales régulièrement. Mais c'est ça qui est dur, cette démotivation. Et bon, on pourrait parler vraiment des heures de sujets passionnants, notamment, en fait, on a parlé beaucoup de motivation intrinsèque et extrinsèque. C'est-à-dire que parfois, on va aller chercher aussi la motivation de se forcer maintenant parce qu'on sait que ça payera plus tard. Parfois, on est motivé dans l'instant présent, on a vraiment besoin de cette énergie, de ce plaisir pour se lancer. Mais de façon fiable, et c'est quelque chose, alors ça me fait écho à ce que tu disais, Alex, dans les groupes de travail, même à très haut niveau, où les gens luttent vraiment pour mettre en place des systèmes d'habitudes réguliers qui les font gagner. Vous parliez tout à l'heure, moi c'est moins ma spécialité le foot, le tennis, certainement pas ma spécialité, je m'intéresse beaucoup plus. Enfin, Federer, à un moment, ça avait beau être un mec super doué, le coach il a dit, bon là par contre, va falloir muscler ton jeu, entre guillemets, sans faire la référence avec Pires et Aimé Jacquet, mais Federer il était là le matin, avec sa balle, il prenait ses appuis et ça le faisait chier. Et Lissarazu il l'a dit aussi, quand il a fait son cardio pour être un meilleur défenseur et qu'il a dû prendre masse musculaire et qu'il levait de la fonte, ça le faisait chier, il était pas là à se dire, ah il me faut absolument un kiff extraordinaire quand je fais mes développés couchés. Il l'a fait, sa motivation c'était de devenir un meilleur joueur, puis comme dit Alex, à un moment sur le terrain, ça le fait chier de se faire bousculer parce qu'il pèse 70 kilos seulement, il prend de la masse, il tient bon, et puis en tant que joueur de poker, comme vous l'avez souligné aussi, enfin, juste votre métier ou votre activité va passer par énormément de moments à la table où, entre guillemets, vous pouvez vous ennuyer parce qu'entre guillemets, il se passe rien. Je mets entre guillemets parce qu'il y a toujours des choses qui se passent à la table, ou tout simplement, vous en prenez plein la gueule, quoi. Il va falloir continuer à faire du volume, à progresser dans cet environnement. Je prends souvent la métaphore, c'est comme quelqu'un qui adore naviguer et faire de la voile. Bah, parfois, il va faire de la voile dans un environnement pourri. Il fait froid, il pleut, il y a de l'orage, il y a d'énormes vagues. Bah, ça fait partie du métier de quelqu'un qui navigue. Des fois, il y a un temps à chier et il faut bien continuer d'avancer avec son bateau. Bah, le joueur de poker, c'est ça. Et il y a trop de gens qui abandonnent parce qu'à un moment, ah, bah, le plaisir est plus là. Ben ouais, mais ça fait partie du taf. Et en fait, on peut prendre plaisir à sentir qu'on résiste à nos impulsions d'abandonner, qu'on est capable de faire face à la variance, que là où on aurait tilté avant, on continue et on revient dans notre game plus. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais
ah, tout à fait,
c'est fois, si, ça fait kiffer, on prend confiance.
Bien sûr, bien sûr.
Mais ça, savoir, on s'estime. Savoir quand tu ressors d'un down et tu ressors, enfin, tu reviens plus, tu deviens plus fort en fait. Tu t'es pris des claques de la gueule, t'as réaffiné ton processus qui était pas si bon que ça, enfin, qui était améliorable, je veux dire. Et plus tu avances, plus tu montes de limites, plus tu sais que tu vas te prendre des downs plus bas, même si des fois tu as l'impression que, comme disait tout à l'heure Chichi, que bah, tu sunrun, c'est trop facile, tout va bien. Mais non, il y a un moment où ça va revenir, tu vas te reprendre des claques de la gueule et tu vas t'en prendre. Si tu montes de limite, tu continues de progresser, tu vas forcément te prendre des claques plus grosses, les exigences elles sont plus hautes, tu as plus de fiches quand tu descends de limite, quand tu montes, tu en as de moins en moins, il faut être meilleur et va falloir être prêt à se prendre des claques plus grosses, à aussi oser plus sur des bluffs que tu faisais pas avant ou des folles que tu, enfin je sais pas, des juste pour revenir sur les zones, les faut apprendre à être résilient en fait, tout simplement. C'est puis même de la vie de tous les jours, ça te sert aussi, hein. Moi j'ai complètement changé d'avis de tous les jours par rapport quand j'ai commencé à bosser sur moi, depuis que je suis joueur de poker, comment tu t'abordes les problèmes de la vie, quoi. C'est comme tu t'es pris des trucs plus gros de la gueule, on va dire, au poker, ou des gros trucs de la gueule, bah t'as appris à être plus fort, tout simplement. Je sais pas comment dire sans
trop. Si quelqu'un veut vraiment rajouter un dernier point, allez-y, mais bon, on a d'autres trucs à aborder, on pourra peut-être faire un focus spécial sur ça. Est-ce que Alex, tu veux rajouter quelque chose peut-être, Chichi?
Non, là on parlait vraiment de la technique à la base quand tu disais pour les 15 heures de poker, mais ce qu'on pouvait dire aussi, c'est qu'on peut faire d'autres choses qui nous permettent de travailler. Alors il ne faut pas qu'on rentre dans la caricature, c'est-à-dire de dire ouais, si je fais du sport, bah, c'est bien pour le poker, du coup à chaque fois je vais faire du sport et je ne vais pas travailler mon poker, c'est une caricature. Mais par contre, les jours où ça ne va pas, pourquoi pas faire autre chose qui va te ramener à tes objectifs de poker quand même, quoi, qui est utile, parce qu'on a réfléchi à c'est quoi un joueur de poker, et avec tous les éléments qui vont à côté, et de travailler un peu tous ces éléments-là aussi, quoi.
Ok, nickel. Écoutez, moi je voulais qu'on passe plus sur un aspect là, concrètement, quand on dit, ok, c'est important d'être efficace quand on bosse notre jeu et de cibler, on va dire, les compétences prioritaires qui vont vous amener de l'edge, de levée, qui vont tout simplement vous faire monter en compétences. Prenons une métaphore débile, par exemple un joueur de tennis, on va dire, bah attends, il faut avant tout que tu aies un service vraiment correct, sinon bah, juste tu vas te faire éclater dès que c'est à toi de servir, et puis des 2-3 fondamentaux. On a un peu spoilé tout à l'heure, mais quels sont selon vous les fondamentaux incontournables, on va dire sur le plan technique, pour rester limité à ça, que trop de joueurs négligent et qu'il faut absolument être sûr de travailler en priorité, au moins sur lesquels il ne faut pas trop avoir de leak, de points faibles. Donc vas-y, Chichi, commence, on verra.
Alors on va éviter de... Je pense que ceux qui regardent ça connaissent au minimum un peu les règles, les positions, ce genre de trucs. Mais déjà, le préflop, clairement. Tout vient du préflop et beaucoup d'erreurs post-flop viennent du préflop. Donc déjà, vraiment bosser et comprendre aussi. Enfin, pas bosser n'importe comment, et ça peut être compliqué parce que par exemple, moi j'ai vu beaucoup de joueurs faire ça en micro-limite. Tu es en NL2, NL5, tu as trouvé des ranges online, tu veux les suivre. Bon, bah si c'est des ranges, je sais pas, de zoom 500, ça n'aura aucun sens, quoi. Ce sera totalement contre-productif. Tu vas jouer beaucoup trop de mains, un règle qui sera totalement différent. Des joueurs qui n'ont pas conscience des ranges. Donc voilà, premier truc, le préflop. Et le deuxième point, le deuxième, ce sera pour moi la table sélection, c'est-à-dire que lever, il faut comprendre d'où il vient. Et même pour les, enfin c'est valable pour tout, hein, mais pour les tournois c'est pareil, quoi. Je pense qu'il y a, ils le savent très bien, il y a les tournois, ils vont regarder, si, enfin je sais pas, notamment par exemple les high-rollers, ce genre de choses, je pense qu'il y en a, je vois pas trop l'intérêt de les jouer, et pourtant je suis pas du tout en tournoi,
ou alors tu cherches pas directement la plus grosse EV, quoi, tu cherches de challenger,
voilà, c'est ça. Après ça va dépendre
de ce que tu
cherches, mais je pense que par contre lorsqu'on joue, voilà, des petites limites, là très clairement ça va être chercher EV, jouer une table où il y a que des règles ou que des nits lorsque tu es sur les petites limites, bon bah peut-être qu'avec un peu de patience, en regardant un peu à droite à gauche, tu vas trouver des tables beaucoup plus intéressantes. Donc ça va être important. Et après, c'est comment je pourrais dire ça, essayer de travailler un petit peu tout ce qui est exploit, c'est-à-dire même préflop, c'est-à-dire comprendre qu'une range, elle est pas fixe, c'est-à-dire comprendre que quand tu es au bouton Et quand tu as une big blind d'un type, tu vas jouer telle main. Quand tu as une big blind d'un type différent, tu vas devoir jouer telle main. Des fois, tu pourrais limite même tout open parce que ça reste totalement OK. Tu peux tout open ici, fold trop et même, on va dire, entre guillemets, c'est bête rien, aucun flop. Ça sera EV+. Donc, en fait, voilà, comprendre, bosser le préflop en priorité pour moi, techniquement, c'est ce que je donnerais comme conseil.
OK. Bah, vas-y, François. Après, Alex.
Non, pareil. Et puis... Non, enfin, je veux dire le préflop, vraiment les ranges. Et comme a dit Chichi, pas rester bloqué sur le range, puisqu'en fait, les ranges, souvent, c'est juste. Ça te montre les mains qui sont EV+ et open si les gens derrière réagissent bien, mais souvent, surtout dans les basses limites, ça va, je sais pas, par exemple, passer 3 bêtes. Donc, du coup, au bouton, si t'as pas un mec qui te 3 bêtes, je sais pas, 17% en théorie, bouton SB, qui 3 bêtes 6%, ben, en fait, ta range, elle est. T'as tellement de mains qui vont gagner de l'argent à ouvrir qu'il faut juste pas rester figé, vraiment s'adapter à sa table. Et puis sinon, juste vraiment, c'est basique, mais quand tu fais une action, te dire pourquoi je la fais, réfléchir à l'intérêt de l'action, parce que t'as des joueurs, je le vois. Enfin, là, j'ai parlé un peu en live à certains joueurs à Madrid, là, et ils font des actions, et quand tu dis pourquoi, ben. Ils savent pas la justifier.
Ouais,
ils ont misé parce qu'ils ont misé. Ils sentaient qu'il fallait miser ou quoi. Mais si tu arrives à comprendre pourquoi tu fais les choses, enfin, c'est juste, c'est simple, hein, vraiment simple. Mais en basse limite, je pense qu'il y a des gens, ils font des choses, ils essayent pas de réfléchir pourquoi ils le font. Et c'est important de. Et
ça arrive souvent. Ouais. Ça arrive souvent. Le temps, ouais. Et c'est le premier point, c'est ce que tu as dit là. Si vous n'êtes pas capable d'expliquer pourquoi vous l'avez fait. En fait, que l'explication soit bonne ou mauvaise, déjà, ce n'est pas vraiment l'important, mais au moins, tu as fait ça, tu dois savoir pourquoi. Si tu ne sais pas, déjà, clairement, il y a un problème. Et tu avais dit au tout début du talk, il y a un truc que j'aime bien, mais je ne sais pas si c'est exactement pareil. Tu dis où tu commentais tes sessions. Moi, je sais que, alors ça, en live, bon, après, je ne fais pas beaucoup de live, ça n'arrive pas, mais online, quand je grind, je dis tout ce que je fais à haute voix.
Ah, bah, c'est exactement ça.
Ça m'aide énormément.
Moi, ça m'a transformé, ça.
Ouais pareil. Et du coup, ça me fait également pas tilter. Par exemple, si River, j'ai dit, OK, ici, je bet fold, bon, bah, vilain, il me shove. Bah, ouais. Mentalement, j'ai pas leak, je suis déjà passé au spot d'après.
T'as anticipé.
Ouais, j'en arrive pas au mode ah, je voulais bet fold, mais non, il n'y a pas ce mais là en fait, et ça aide beaucoup.
Hein. Des fois, il faut faire gaffe à ça parce que tu te dis, je sais pas, je vais ou check fold ou bet fold river, et finalement, il arrive que le mec fasse qu'une blague ou j'en sais rien, et tu dis, faut toujours réévaluer, savoir réévaluer. Mais par contre, ouais, c'est vrai que, ou même quand tu pars pour faire un bluff river, que tu hésites et qu'à voix haute, tu t'es dit, OK, je fais ce bluff parce qu'il y a ça, je fais fold ça. Je sais que je vais me faire call par ça. Tu fais ton bluff, tu te fais call par la partie que tu voulais pas. Mais en fait, tu t'es un peu conditionné à accepter de se faire attraper, de se faire avoir cette fois-ci. Quoi. Après, il faut que ça reste cohérent, mais ouais. Voilà.
Bon, Alex, toi, j'imagine que tu vas pas nous dire que les ranges pré-flop, c'est pas important.
En plus, il l'a dit tout à l'heure déjà.
Bah ouais, mais de toute façon, on s'accorde, c'est un peu comme l'alpha. Enfin, je sais pas comment dire, quoi. C'est à part les cotes, des trucs vraiment basiques comme dit Chichi, qu'a priori tout le monde connaît ici, c'est complètement négligé. Les gens disent ouais, j'ai des ranges pré-flop.
Non, mais ça vaut trop d'argent.
Non, mais surtout, les gens, ils disent j'ai des ranges pré-flop, c'est pas vrai, quoi. Ils les ont, ils ont calqué un truc qu'ils ont vu dans une masterclass, soit la nôtre ou d'autres. Et t'as beau leur dire non, mais il faut l'adapter à votre fil, comprendre pourquoi là t'ouvres pas dame 7 de trèfle alors. Ah ben bah, je sais pas, c'est pas dans la range. Mais on s'en fout, là par rapport aux adversaires, c'est pas pertinent. Ah ben bah, si, il y a deux nids dans les blindes, bah ouvre-le alors, enfin bon ouais, etc. Qu'est-ce que t'aurais d'autre, Alex, qui te vient en tête comme un truc qui est quand même pas mal négligé, qu'on pourrait vraiment bosser, à part peut-être les ranges pré-flop ou disons détailler peut-être les ranges pré-flop, je sais pas.
Alors sur les ranges pré-flop, moi j'attire le fait sur le. Maintenant, il y a quand même beaucoup de solvers qui ont été faits et que les gens utilisent. Donc comme tu dis, le problème c'est que les gens les utilisent mais pas forcément à bon escient. Donc post-flop derrière, ils se mettent dans des situations compliquées avec des mains où ils ne sauront pas jouer comme le solver, etc. Bon, sans rentrer dans les détails. Mais ça n'empêche qu'il ne faut pas non plus de rentrer dans la caricature aussi, de se dire bon bah du coup je fold beaucoup trop de SB quand même parce que je vais trop perdre d'argent. Ça c'est une compensation qui ne sera pas suffisante et qui ne sera pas bonne sur du long terme. Dans un premier temps, pourquoi pas, mais après il faut essayer de trouver pourquoi. Par contre, je réagis juste sur le fait de se dire on le fait, on ne sait pas pourquoi. Clairement, il y a beaucoup de joueurs qui le font, surtout des joueurs de live, mais qui le font, donc ils ne connaissent pas les raisons. Alors, il y en a qui le font pour des mauvaises raisons, ça c'est encore un autre débat. Mais ceux qui le font sans connaître les raisons réellement, au fond d'eux, ils les connaissent, quoi. c'est l'instinct, c'est pas genre, c'est pas juste, tiens, je sens que ça sent bon, quoi. Tu vois, c'est un truc qu'ils ont vu et revu et re-revu, et leur inconscient leur fait prendre une situation et leur fait décider de cette décision-là. Donc, c'est pas, tu vois, c'est pas réellement anodin, en fait, comme décision. Et on le sait, enfin, moi, je le vois par rapport, j'ai beaucoup, beaucoup côtoyé les cercles à l'époque, etc. Et il y a énormément de moves qui étaient faits par des joueurs récréatifs. Qui en fait on s'est avéré dans les solvers qui étaient complètement bons quoi tu vois et alors encore une fois là où Chichi a raison c'est ok mais pour quelle raison est-ce qu'on le fait mais eux ils le savent parce qu'ils ont vu tellement de mains ils ont vu des choses ils ont vu des machins ils ont ressenti des choses etc et qu'ils le font. Mais il faut pas ça c'est un peu le comment dire le pour compenser certaines lacunes quoi. On peut après les approfondir et savoir justement le pourquoi est-ce qu'on fait ça. Mais ouais, la base, c'est le préflop. Je pense réellement, moi, c'est encore une fois ce qui m'a permis de passer un cap, c'est ça. Genre vraiment. Et je pense qu'avoir des ranges, enfin, c'est une obligation vraiment dans le poker aujourd'hui.
100% des mains commencent préflop, de toute façon, c'est les fondations du truc, et comme disait Chichi, et tout le monde s'accorde à dire ça, quand c'est parfaitement joué préflop et qu'on sait pourquoi, bah c'est tellement plus simple de jouer postflop, et ça restera quand même compliqué, mais on sait où on a mis les pieds, quoi. Donc, ok. Bon,
Clairement.
pour pas trop perdre de temps, alors du coup, question peut-être un peu plus pertinente, comment on fait quand on commence à sortir un peu des sentiers battus et qu'ok, on bosse certes les fondamentaux, mais nous, on sent qu'on a des leaks là, en restant encore une fois sur le technique. Comment on fait pour bosser ou découvrir telle ou telle leak technique. Partons du principe là qu'on est seul, hein. On est en train de review notre jeu, où on ressent vraiment de l'inconfort, là, dans un spot de 3 bêtes, on est hors pause, on sait pas quoi faire, on a 3 bêtes notre paire de 10 par exemple, on sait que c'était un bon 3 bêtes, tout le monde nous le dit, nous on n'est pas confort. Est-ce qu'on doit vraiment écouter notre sentiment d'inconfort profond et vraiment focus là-dessus? Ou si c'est pas le cas, parce que parfois on se sent totalement inconfortable, mais comme on l'a dit, c'est un spot de check raise river qui arrive jamais et c'est pas productif de le bosser. Comment on fait alors? Parce qu'une fois qu'on a bossé les fondamentaux, comment s'aiguiller pour savoir sur quelle lumière on doit focus? Parce que dans une session, on joue des tonnes de mains, quoi. Comment, une fois qu'on s'écarte des fondamentaux, on va bosser certains spots? Donc vas-y, François.
Bah
Démarre.
déjà, ça, enfin, quand tu trouves les spots qui reviennent et qui te plaisent pas, ça peut être un début de déjà comment dire, un début de
D'accord.
d'idée quoi. Si des spots qui reviennent que t'aimes pas, je sais pas, tu te fais overbet au turn souvent. Enfin, faut que si les spots qui reviennent assez souvent, généralement c'est déjà un bonne direction à prendre quoi. Après, tu peux aussi te faire coacher. Un coach, ça peut rapidement te trouver tes
Bah on va
leaks.
y venir, c'est pour ça que je disais tout
Ah, ok,
seul, enfin,
d'accord.
c'est
Je
clairement
parle
une
tout
des
seul.
meilleures
Ah, pardon, t'as
méthodes.
dit tout seul,
Comme on
pardon.
parle quand même, on va passer pas mal de temps tout seul à review nos mains de la session ou à avoir noté des mains, à dire voilà, là il y a 20 mains dans la session qui m'ont posé problème, bah on n'a pas le temps de bosser 20 mains clairement. Comment on va essayer d'être le plus efficace possible? Se dire bon bah voilà, j'ai pas trop de temps à consacrer, mais je veux trouver des axes de travail solitaires, on va dire pour
Bah,
l'instant.
dans ce cas-là, si tu vois que dans tes mains, il y en a, je sais pas, 10 qui ont un point commun sur 20, enfin, tu les fais rapidement,
Tu veux
bah,
focus qui revient le plus, quoi.
moi, je fais plus en review, mais enfin, c'est en utilisant plus un tracker où je vais review mes propres stats pour aller voir les. On va dire, mais après, c'est pareil, il faut déjà savoir. Après, tu peux aussi demander, ça vient presque du coaching, à tes potes autour de toi s'ils te connaissent bien, ou tu leur demandes c'est quoi mes points forts, mes points faibles, vous en pensez quoi? Ils peuvent te dire, je sais pas, bah, t'es beaucoup trop aggro, ou tu te level beaucoup trop, ou t'es justement pas assez aggro, j'en sais rien. C'est très général ce que je dis, mais ça peut déjà donner une idée de, ok, ou tu folles de trop, enfin.
Alors là, c'est un peu de la triche encore une fois parce qu'il y a une aide externe, mais je voulais te demander,
Ah oui,
toi qui
putain,
l'as
c'est tout
fait,
ça.
toi qui l'as fait, est-ce que ça
J'ai
vaut
pas
pas
dit.
le coup? Est-ce que tu l'as déjà fait carrément de te filmer, tu filmes ta session et tu la re-regardes à froid peut-être le lendemain. Est-ce que vous avez déjà fait ça pour juste, comme dit Chichi, tu vas commenter à voix haute ce que tu fais peut te faire progresser. Est-ce que vous avez déjà essayé? Vous filmez votre session de grind, ultra focus, vous essayez vraiment de jouer votre A-game. Voilà, et le lendemain, tête reposée, vous re-regardez votre truc, et parfois, moi j'ai souvent remarqué dans mon jeu, quand à l'époque je jouais encore ou chez d'autres élèves, on va dire, ils sont surpris, ils se disent ah bah là ça va toujours être un open, puis ils open pas, et ils disent attends, mais. Et ça peut permettre de mettre en lumière des choses qu'on soupçonnait pas.
Typiquement, tu peux voir, ouais, par exemple, je sais pas si tu connais bien tes ranges, mais ça, c'est des problèmes. Après, je pense mentaux, en fait. Si tu t'en aperçois en review, juste en regardant, ça veut dire que tu es au courant de ce qu'il faut faire, je pense. Et du coup, ça veut dire que on va pointer le doigt sur des problèmes mentaux. J'ai eu un copain, je parlais avec lui poker. Franchement, c'était un mec, j'étais prêt à le stacker sur les 250, il n'y avait pas de problème. Et pourtant, il était perdant, vraiment, quoi. Il perdait tout, il ne jouait pas les 250 et il perdait. Et j'ai regardé ses sessions et en fait, je m'apercevais qu'il y avait plein de choses qu'il savait théoriquement. Mais en pratique, il ne le faisait jamais. Alors, il avait peur de bust, il avait peur de... Et il se disait que, ouais, là, je mixe, mais en fait, il ne mixait pas, il faisait tout le temps la même chose. Enfin, tu vois, genre, et son jeu, et je lui ai dit ouvertement, on travaillait l'ICM, on avait travaillé un peu l'ICM ensemble, et tout, on avait poussé un peu les choses. Et je lui ai dit ouvertement, au moment, je lui ai dit, écoute, stop, t'arrêtes de travailler la technique, t'arrêtes de travailler tout ça, parce que là, moi, je ne te stack pas sur un 50. Donc, tu vas prendre un coach mental, quoi. Et depuis, il a pris un coach mental et franchement, il a une grosse évolution. Genre, il a ses résultats, sont devenus nettement meilleurs. Donc, voilà.
Mais moi, ça m'a fait ça. Moi, j'avais un niveau in-game qui était bien différent du niveau en review. Et dès que j'ai commenté, c'est pour ça que tu disais qu'en fait, quand on commente, on peut trouver tout seul ses leaks parce que en parlant à voix haute, tu vois les spots où tu te vois bugger des fois. Quoi. Tu te vois être incohérent des fois. Mais tu vois les spots qui tu sais pas, et puis déjà ça te force aussi à réfléchir sur les spots. C'est une bonne progression, je pense, de s'enregistrer, enfin de commenter et de se revoir après. Et sinon, c'est pour ça, pour la manière de progresser, je pense que je l'ai dit au tout début, mais il y a des joueurs, ils sont obligés de passer par le mental et beaucoup plus tôt que d'autres. Moi, c'était vraiment, il y a des joueurs qui sont beaucoup plus leakés que d'autres. Mentalement, de fait de leur évolution de vie, enfin tout ce qui avant qu'ils aient dans le poker. Et s'ils prennent pas conscience de ça, mais leur progression elle va être extrêmement ralentie, okay, quoi. Ouais. Freinée. Ouais.
Complètement. Chichi, toi, sur ça, comment détecter un peu ces leaks tout seul? Après, on va parler de comment jouer et travailler son jeu tout seul. Mais...
Toujours pareil, on va essayer de partir de la base de la pyramide, à essayer de chercher un petit peu les plus gros leaks. Pour après remonter en cash, typiquement, tu vas t'ouvres ton tracker, tu regardes tes win rates par position et déjà tu vas tout de suite voir s'il y a un énorme problème ou pas. Imaginons, le bouton, c'est pas la position sur laquelle tu es le plus gagnant. Oui. Bon, clairement, il y a déjà un problème. Donc tu sais que, priorité.
Sur un gros volume, je dis pardon, pour ceux qui ne connaissent pas, il faut qu'il y ait un gros volume.
Il faut qu'on ait un échantillon.
Ça peut être la variance qui fait.
Voilà, sur 1000 mains, ne regardez pas vos stats. Mais voilà, si on commence déjà à avoir un échantillon assez important, on peut déjà regarder ça. Et là, on sait, le bouton, c'est la priorité. Donc on va commencer à regarder bouton contre les blindes, bouton contre le cutoff, etc. Donc là, ça commence. Ensuite, si là, on va dire, imaginons, les winners ne sont pas trop mal, on peut continuer à gratter et à regarder, par exemple, par type de main. On peut regarder par exemple, est-ce qu'avec les pocket pairs, je suis gagnant ou pas? Et si on se rend compte que je suis gagnant avec tout ce qui est 8-8+, et par contre, toutes les petites pocket pairs, il y a un problème, c'est peut-être qu'on essaie de trop set-miner, c'est peut-être qu'on colle trop hors de position, ce genre de choses. Donc là, c'est vraiment, c'est vraiment les gros trucs qui peuvent apparaître. Mais au moins ça, tout seul, on peut le faire. Ça peut donner des petits déclics et se dire, mais là, en fait, cette main, je ne sais pas du tout la jouer. Je colle peut-être trop hors de position ou quoi. Et chercher un petit peu comme ça. Après, évidemment, l'aide extérieure viendra après. Et je suis d'accord avec Alex et François a rebondi aussi dessus. Des fois, il y a une trop grosse différence entre notre niveau à froid et notre niveau à chaud. Et moi, je pense qu'on a tous forcément un minimum de différence et c'est normal. Moi, je considère que si tu as le même niveau à chaud qu'à froid, tu es clairement top, top mondiaux. Mais c'est extrêmement, extrêmement difficile parce que, encore plus quand tu joues en live, je pense, parce que tu peux avoir la fatigue, tu peux avoir plein de choses qui te sortent un petit peu de ta zone de confort. C'est peut-être plus facile devant notre PC chez nous. Mais ça, c'est important et je pense qu'on travaille tous dans ce sens-là justement pour améliorer notre niveau à chaud et le calquer au maximum sur nos réflexions à froid, quoi.
Ça marche. Et du coup, passons maintenant... question assez basique. Et comment on va bosser son jeu seul? Après, on passera à bosser son jeu en groupe, éventuellement avec un coach ou en remontrant nos sessions à un ami. Mais comme je disais tout à l'heure, et ça c'est vachement important, on va peut-être même se prendre, j'avais pas anticipé cet axe de discussion. On va parler d'un travail assez rapide qu'on peut faire, comme tu disais par exemple François, des petites flashcards ou des trucs à faire très rapidement en fin de session ou en début de session, qui peuvent permettre de se motiver en début de session comme un échauffement ou boucler notre session en cooldown. Et ensuite, passer à une partie un peu plus approfondie. Mais assez rapidement, comment on peut bosser notre jeu, particulièrement quand on est débutant? Qu'est-ce qui pourrait nous aider? Ou même les questions à se poser, hein, une petite grille de questions à se poser, des petits tips comme ça. Donc, vas-y, Alex, et on tourne ensuite.
C'est compliqué.
Commence par approfondir en premier, hein, si tu préfères.
Et pas en surface, Alex, directement.
Non. Mais non, c'est voir pourquoi, voilà, se poser les questions de ce que disait tout à l'heure Mika aussi, de quand on bête, est-ce qu'on value, est-ce qu'on protège, qu'est-ce que ça accomplit, en fait, quelle est l'action de notre... qu'est-ce qu'accomplit notre action et pourquoi est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on le fait pour les bonnes raisons? Est-ce qu'on le fait parce qu'on a peur de se faire craquer notre carte, tu vois, si on va un peu dans le langage familier, ou est-ce qu'au contraire, là, on bête pas assez cher parce qu'on value pas assez vu la texture, pourquoi les équités. Enfin, tu vois, il y a plein de choses à se poser comme question, mais juste se poser des questions, quoi, en fait. En gros, je me dirais
et
juste
comment
ça.
Tu le ferais, toi, tu le fais vraiment dans ta tête ou limite tu as un petit process, tu prends un papier ou tu commentes à voix haute pour dérouler ton truc? Parce qu'il y a aussi des gens qui, quand ils
non.
le font dans leur tête, si tu veux, ça bloque, ça frictionne, c'est inconfortable et ils zappent, tu vois.
Non, moi honnêtement, ce que je fais, c'est que genre quand je fais une session, les spots qui m'ont posé un petit peu de problème ou je suis pas sûr ou c'est les spots importants ou quoi, donc je les avec le tracker, tu les mets de côté, quoi, tu les enregistres et j'essaye de faire ça maintenant, genre tous les jours, je fais 4-5 mains, 3-4 mains en routine même presque. Que je revois et grâce aujourd'hui aux différents solvers qui sont très faciles d'accès par rapport à ce qui a pu être avant et on vérifie en fait, on vérifie si on est dans le vrai ou si on n'est pas dans le vrai. Après, il faut faire attention à pas, parce que le comment dire le solver va quand même souvent nous dire qu'on a raison. Donc il faut pas se voiler la face. Non, ça dépend des jours, mais je veux dire il y a beaucoup de fréquences.
Le petit braque caché, hein, regarde.
Non.
Le solver valide tout le temps.
Ah, mais il y aura toujours le petit 2-3% qui
voilà, c'est ça que je veux dire, c'est qu'en gros si à un moment on voit qu'on a 20 et 80% et qu'on a pris le 20%, se poser la question de pourquoi est-ce qu'on a pris 20%, tu vois. Si on l'a pris parce qu'en fait on s'est enfin, genre juste l'autre solution c'était la botte, c'était les 80, ou est-ce qu'on l'a pris parce que ce profil là c'était peut-être mieux de le faire, ou parce qu'on a randomisé, ou parce que tu vois, genre peu importe, mais qu'on ait une bonne raison pour le faire, ça va. Si on l'a fait en pensant que c'était vraiment l'action à faire, bah là on a un leak, tu vois, en gros, quoi. Voilà. C'est juste dans ce sens-là que je mets les alertes. Après, et ça permet énormément de choses. Ça permet de consolider notre jeu et de garder en confiance vraiment quand ça se passe pas très bien, quoi. Et quand on est tout seul, c'est bien de pouvoir le faire. Et voilà.
Ok, vas-y François, toi.
Non, bah du coup, si on n'a pas de tracker, bon, après ça dépend des sites où on joue, mais il y a moyen de récupérer des replayers des tournois qu'on a joué pour si on est vraiment tout seul et du coup revoir et du coup se poser des questions comme disait Alex. C'est important parce que ça arrive quasi tout le temps que tu joues un tournoi et quand tu le reviews, tu te dis ben, en fait il y a des spots que j'aurais pas pris pareil. Bon, après des fois tu as des infos in-game que tu quand tu revois un replayer, des fois tu zades des mains donc tu vois pas des erreurs qu'ont fait de certains adversaires que tu as pris en compte in-game parce que tu les as vus. Mais du coup, ça peut être un début. Et si tu utilises des logiciels solvés, c'est quand même important. Je ne sais pas comment dire. En fait, il y a le solver, quand tu regardes souvent, enfin, sauf si tu modifies toi-même tu mets toi-même les paramètres ou les ranges ou les modifications, il joue contre solver. Donc, par exemple, il va te dire bah, cette main-là au flop, il va la checker. Une main forte au flop, il va la checker parce qu'en fait, quand on arrive au turn, l'autre, il va faire des sizing d'overbet ou trois fois pour river. Donc, ta main, tu check au flop parce qu'elle fait plus d'argent à checker au flop contre un bon joueur. Si tu joues contre un joueur passif, bah en fait, si tu mets dans le solver que tu joues contre un joueur passif, là, je sais pas, ta perda, celui de la checker au flop, bah, il a tout le temps la 3 barres à jam. Et c'est toujours important de pas juste suivre le solver à te dire pourquoi le solver, il pense qu'il gagne plus d'argent comme ça. Et c'est important de regarder les réactions aussi, pas juste toi, ce que tu as fait. Important de regarder les réactions. Et si tu vois que les réactions, elles ne sont pas du tout comme tu t'attends à ce que les joueurs y font, bah, en fait, la signe que tu regardes, faut la prendre avec des pincettes, quoi. Faut vraiment te dire.
Une petite limite, je pense. Et on a une audience.
Parce que
les solvers peuvent carrément devenir complètement contre-productifs et faire foncer
sur
certains joueurs qui arrivent même pas à jouer exploitant contre des récréatifs ou contre des nids et tout. Mais
pour ça, solver au tout début, je pense que c'est pas.
Ouais, moi, je conseille pas.
Je pense pas que ce soit.
Ce qui est peut-être intéressant, c'est dans les solvers quand même, c'est un peu comme l'histoire de Snapchauffe, quoi. C'est-à-dire que Snapchauffe, c'est bien quand tu chauffes, c'est moins bien quand tu calls, même si on va quand même pas chauffer tout le temps Snapchauffe parce qu'il y a des EV qui sont encore meilleurs. Bon, ça rentre dans les débats. Mais je veux dire, Bah, les solvers, ça peut permettre aussi d'avoir les bons bluffs. C'est dur d'avoir des bons bluffs. Il y a plein de choses où des fois on prend des bluffs qui
Ah
sont pas bons, en
oui.
fait. Tu
Bah
vois,
pour le pré-flop,
combien
c'est pareil.
ouais, pour le pré-flop, c'est pareil. Mais par exemple, combien de fois on va. Enfin, des gens vont se dire, ah, il y a mise draw, du coup, il va bluff son draw. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui vont
Voilà.
bluff les flush draws, alors qu'en fait, c'est presque
C'est
les plus
l'inverse
mauvais,
des fois, quand
c'est
même.
presque les plus mauvais bluffs, quoi. Et en fait, ça, du coup, de le savoir, donc, quand tu as plus ces bluffs-là, bah, il faut quand même bluffer de temps en temps, il faut aller trouver des bons bluffs. Et ça, quand c'est toi l'agresseur, je pense que c'est cool les solvers.
Ah oui, c'est vrai, c'est vrai.
Après, c'est vrai que dans l'autre sens, je suis d'accord avec ce que dit François, hein, c'est l'adaptation et c'est ce qui est super important, c'est de ne pas réagir en mode le solver. Et on le sait, il y a plein de joueurs qui ont perdu énormément d'argent en termes d'EV pur en voulant jouer le plus, avec le plus de solvers possible, alors qu'au final, ce n'était pas du tout approprié et ce n'est pas ce qui gagnait le plus d'argent contre le profil adverse, quoi, tout simplement, quoi.
Ok, chichi.
Je vais mettre de côté les solvers, etc. Parce que enfin, moi aussi, je ne les conseille pas du tout lorsqu'on commence. Je pense que ça peut faire beaucoup plus d'erreurs que d'autres. Ou alors, il faut le voir comme un travail, mais qui ne va pas être un travail de notre jeu qu'on va appliquer, plus un travail parce qu'on est passionné sur le jeu et voilà, essayer de comprendre des concepts ou quoi. Mais bon, ça ne va pas nous permettre d'appliquer ces choses-là sur les tables. Ça fera pas de sens. Aussi, ça c'est un truc qu'on n'a pas dit parce que je pense que pour nous, bah, on a l'impression qu'on n'a pas besoin de le dire, mais je pense que c'est bien de le dire pour la plupart de l'audience. C'est quand on dit qu'on prend des spots, qu'on les travaille, etc. C'est pas forcément que des mains qu'on a perdues. On va des fois apprendre énormément de choses dans des situations qu'on a gagnées et c'est souvent les leaks les plus difficiles à repérer parce que ça, bah, c'est le problème du poker, c'est que des fois on va faire quelque chose, on va gagner la main, donc on va mentalement, on va un petit peu se dire que c'était bien joué ou quoi, ou même si on va se dire bon, c'était peut-être pas mieux, on passe très très vite à autre chose. Alors qu'au final, si on travaille cette situation-là, on va peut-être gagner beaucoup beaucoup plus de V, alors que peut-être qu'on a fait un call river qui était perdant, mais en fait, il fallait le faire parce que c'était ce qu'il fallait faire sur le moment. Et on va juste se dire ah bah là, j'ai perdu un énorme pot, là, j'en ai gagné un petit. Bah, forcément, c'est plus facile mentalement de dire bah, il faut que je travaille le gros pot, alors qu'en fait, c'est sur le petit qu'on
Ouais.
apprendra peut-être plus de choses. Vas-y, vas-y, François.
Ça revient au final à perdre ce que je dis tout à l'heure en fait. Le joueur qui va checker
Ouais.
sa perdasse au flop, bah forcément, enfin, la plupart du temps, il va gagner le pot. Mais en fait, si contre le profil, en fait, au lieu de pouvoir miser que lui, turn et river, et l'optimiser flop, turn et river, bah, ça fait pas du tout le même pot, la même EV, et tu gagnes beaucoup plus d'argent. Et
Et on
du
va,
coup, ouais, et on gagne le pot dans les deux cas, quoi.
c'est ça, essayer de comprendre ça. Et moi aussi, une chose que je fais depuis pas si longtemps, mais on va dire depuis un an, c'est maintenant quand je travaille un spot, très souvent, je vais le travailler de deux façons. C'est-à-dire, si c'est un spot, par exemple, contre un reg, je vais travailler contre un reg. Et en fait, je vais me dire, mais si c'était un récréatif, par exemple, qu'est-ce que j'aurais fait de différent? Et bah, très souvent, en fait, on n'aura pas forcément les mêmes lines, on n'aura pas forcément les mêmes sizing, bah, parce qu'on joue contre des ranges là qui sont pas les mêmes, quoi. Donc, ce serait assez, enfin, ça ferait pas de sens de jouer la même situation de la même manière si on joue contre deux ranges différentes. Ça, je pense, c'est important. Et se dire aussi à la river, réfléchir sur des choses, ou pas forcément à la river, mais sur le sizing, par exemple. Est-ce qu'ici, j'aurais pas pu mettre deux blindes de plus, trois blindes de plus? Parce qu'au final, sur le long terme, bah, c'est juste gigantesque, quoi. Si on arrive à gratter trois blindes, cinq blindes, 10 blindes ou quoi, c'est énorme. Donc, à essayer de réfléchir à ça. Et ça, je pense qu'on n'a pas forcément besoin d'un solver des fois pour le faire. Juste se poser des questions et prendre un peu de temps pour y réfléchir, ça fait avancer, quoi.
Tu voulais rebondir, Alex?
Ouais, juste un truc qu'on n'a pas parlé aussi quand on pour travailler seul, de review des enfin de rail en fait. De rail online sur des tendances, sur des limites plus hautes, par exemple, et essayer de regarder un peu ce qui se fait, et du coup, d'essayer de comprendre pourquoi ça se fait. Je pense que ça, c'est intéressant. J'ai rarement procédé comme ça, honnêtement, mais je connais pas mal de joueurs qui l'ont fait et qui ont eu des très bons retours. Et ça permet d'être en avance, quoi, clairement, quoi. Si tu fais attention à te poser la bonne question, tu regardes des replays de TF, tu regardes, voilà, après il y a des CM et tout, c'est un peu différent, mais on apprendra de la TF, ou tu railles un tournoi en fin de game que tu n'as pas l'habitude de jouer un peu plus haut, ou que tu as l'habitude de jouer d'ailleurs, avec des règles, tu fais le référencement de tous les règles qui gagnent sur tes limites et qui crushent les limites, et tu les railles et tu regardes ce qui se fait. Et je pense que ça peut être une très bonne source d'apprentissage seul, et tu peux travailler seul. Ouais.
Ouais, je suis d'accord pour la compréhension du jeu, clairement que ça va être important. Après, ça peut être dangereux, attention à pas vouloir forcément l'appliquer, tu vois. Non, vraiment le comprendre, c'est très important et se poser les bonnes questions. Mais
Il
bon,
faut
bah comme
l'intégrer à son field, à ses limites, à son
voilà,
profil,
ouais.
bien sûr.
Mais c'est vrai que pour la compréhension, etc. Et puis même en plus, bah, pour le coup, c'est du plaisir de regarder les limites plus hautes des fois ou quoi. Donc ça peut, c'est
Ouais,
assez.
et puis si t'as un raid qui crush et qui fait quelque chose de systématique, même à une limite au-dessus, pourquoi est-ce qu'elle ne marcherait pas à ta limite? Si elle ne marche pas, tu t'en rendras compte, mais en tout cas, tu peux l'essayer, quoi. Tu vois,
Oui,
genre.
tu peux l'essayer, si tu as la discipline de te dire je teste et après
Voilà.
j'enlève ou je le garde.
Parce que, en gros, que les. Que les s'il le fait pour la raison, la tendance, elle pourra changer et la raison pourra rester la même, en fait. Tu vois, genre, enfin, si à un moment, dans un certain field, ça va trop call un spot, et ben peut-être qu'en dessous, ça va trop fold ce spot-là, tu vois, genre, et tu vas l'adapter à tes niveaux. Donc, je pense que ça restera une bonne source d'apprentissage, quoi.
Ok. Bah écoutez, très bien. Je rajoute juste un truc qui a été dit, mais vraiment j'insiste, particulièrement pour notre audience. Essayez pas de vous focus en disant je vais travailler mon jeu seul et review par exemple les mains qui émotionnellement m'ont le plus tilté par exemple et juste rester là-dessus. Parce que nous on le voit, il y a plein de gens qui nous envoient des mains qui ont vraiment mais strictement aucun intérêt, qui sont juste des bad beats ou des sortes de setup que les gens envoient presque pour se rassurer. Et en fait ils disent bah ouais mais moi je les review vachement tout seul, regarde là ce que j'aurais pu faire autrement. Enfin, mais non là c'est juste paire d'as contre paire de dames, 30, 20
Je vois
types,
ça
on s'en fout. Et c'est un truc de fou à quel point ça revient souvent, ou un bad beat, où en fait la personne essaye de s'auto-confirmer qu'elle a bien joué. Jouer. Bon, ça, c'est pas du tout du travail sur votre jeu, hein, donc faites attention. Il faut absolument qu'on enchaîne sur le, et ce sera le dernier volet de Stalk, sur le travail du jeu, justement, accompagner comment travailler son jeu de façon efficace et progresser de façon efficace. On l'a dit, vraiment, l'entourage, c'est giga important, on le répète tout le temps, on le répétera toute notre vie, tant qu'on fera de l'éducation sur le poker en ligne, c'est normal. Mais une fois qu'on a dit ça, on va commencer par peut-être pas le plus simple, mais c'est pas évident de se créer un entourage quand on débute au poker et tout, un entourage de qualité évidemment, qui peut parfois être pas très productif. Si on se fait un groupe de travail avec des gens qui bossent moyennement bien, qui ont un niveau moyen, une motive moyenne, parfois on peut perdre énormément de temps. Donc pas mal de gens cherchent un coach et soit ont du mal à chercher un coach, donc on va pas lancer le débat comment on trouve un bon coach. Partons du principe qu'on a enfin un bon coach qu'on va pouvoir prendre, disons, une fois par semaine pendant 3-4 mois. Comment on optimise cette toute petite heure qu'on a avec notre coach pour justement que ce coach nous fasse progresser de façon efficace? Parce que mon sentiment, ayant beaucoup coaché, ayant beaucoup de feedback de coach, c'est que l'élève, parfois, attend que le coach lui serve tout sur un plateau d'argent. Évidemment, si le coach est excellent, il va quand même très bien guider son élève. Mais moi, je pars du principe que l'élève doit être aussi actif que possible. Et j'ai mes petites idées sur la question, mais qu'est-ce que vous en pensez, vous? Donc, on va commencer avec Alex. Imagine, tu as un coach, comment tu vas optimiser ton coaching au mieux lorsque tu vas le rencontrer et dans la durée, du coup, quoi.
Alors déjà, je pense que l'objectivité de nous-mêmes est super importante et avoir confiance en son coach. C'est les deux choses qui sont très importantes. C'est-à-dire que quand on arrive, il ne faut pas se dire, OK, est-ce que je... Et c'est pas facile à faire. C'est pas facile à faire quand on a un peu d'ego. Donc c'est mettre l'ego de côté. C'est d'avoir notre coach et de dire, OK, voilà, je te montre une review. Ne pas avoir peur de montrer la review. Il y a beaucoup de joueurs qui veulent en gros que nous, enfin que les coachs en gros montrent leur review. Ça n'a pas de sens. Genre, ouais, mais montre-moi comment tu aurais fait. Et puis surtout, ce qui arrive très souvent, c'est que quand on fait un play, l'élève va dire, ah ben j'aurais fait pareil. Et ça, je pense qu'on l'a à peu près tous entendu. Ça montre déjà un manque d'objectivité.
C'est
Donc il
quoi, tu
faut
disais,
que.
c'est un manque d'objectivité ou c'est de la peur de montrer ses erreurs ou
Un peu des deux, parce que
avoir partir sur du mental.
je pense qu'il le pense réellement, je pense. Enfin, genre, il pense que, en fait, le fait de l'avoir dit, de l'avoir expliqué, pour eux, c'est plus ou moins logique et c'est plus ou moins fluide. Donc, ils se disent, ah, ben, j'aurais fait pareil, tu vois.
D'accord.
Et c'est donc c'est important, moi, si c'est arrivé, de dire, OK, balancer un peu toutes nos données, expliquer un peu son état d'esprit et ce qu'on pense réellement de notre jeu. Là où on pense avoir des leaks, là où on pense avoir nos forces, et lui justement le coach va vérifier si ce que l'on croit de nous-mêmes est vrai ou pas en fait quoi. Moi je le verrai comme ça. Donc vraiment pas avoir peur de dire les de se mettre à nu en fait quoi. Vraiment
De montrer ses faiblesses telles qu'elles
de
sont
montrer ses
objectivement,
faiblesses quoi.
quoi.
Voilà tout à
Ouais.
fait, ouais, tout à fait.
Ok. François, puis Chichi? Optimiser la progression du
Ouais,
travail
bah
avec un coach.
du coup, enfin, clairement, si le coach dit, enfin, si le coach il est bon, qui te dit où sont tes leaks, il faut d'ailleurs que tu fasses du travail toi-même, quoi. Enfin, une heure par semaine avec le coach, ça suffit pas. Faut que derrière toi, s'il te dit, je sais pas, bah tiens, t'as tel spot à bosser, il te dit, je sais pas, tu sais bête pas assez tout court, ou même non, tu open pas assez au bouton. Bah derrière, c'est à toi d'aller, par exemple, faire un filtre dans ton tracker et après chaque session, tu regardes tes spots au bouton. Il te file une range, j'en sais rien. Enfin, je dis ça parce que c'est un exemple qui est simple et que j'ai eu pas mal quand je coach. Et en gros, ça c'est si tu mets bien, faut mettre des actions en place. Voilà, c'est ça. Mettre des actions en place. De toute façon, quand tu veux progresser, ouais, c'est ça. Le coach, il va te dire des trucs. Derrière, tu prends des notes si possible. Mais en tout cas, tu mets des actions derrière. Si tu n'as pas pris de notes, il faut que tu mettes des actions derrière. pour aller avancer, tout simplement. C'est comme dit Alex, pour réviser. Ben, c'est pareil, si tu mets des actions en place, c'est comme si tu révises. Enfin, ouais, juste ça, c'est hyper important. Et ensuite, donc, par rapport au coach, ouais, non, c'est ça. Ben, si ton coach, il est bon, de toute façon, il va te guider bien. Il faut que tu fasses le taf toi-même en plus derrière. C'est comme, je sais pas, c'est comme si tu vas, quand tu es à l'école et que tu fais, t'as un cours d'une heure de maths, ben, si tu fais rien, l'heure de maths d'après, ça va être renouveau, tu redécouvres. Et, enfin, c'est.
Et du coup, question même pour vous deux, vous faites quoi? Vous débarquez avec votre coach et vous dites, voilà, moi je pense que j'ai tel ou tel leak, vous laissez le coach prendre en main le truc, ou vous arrivez en disant, voilà, je me suis filmé une heure, ça c'est typique mon jeu en high game quand je suis focus, jette un œil ou jette un œil à mon tracker. Enfin, mine de rien, le point de départ sur lequel on va débuter le coaching aussi est important. Qu'est-ce que vous en pensez avant de passer à part la fichu
Là, tu vas gagner du temps, c'est sûr, si tu arrives déjà avec le travail que tu recherches de la part. Enfin, quand tu prends un coach, tu sais. Tu as réfléchi à qu'est-ce qui va t'apporter un petit peu, quoi.
Ah bah,
et
pas
c'est
pour
ça.
Vaut mieux.
Et c'est, enfin, voilà, mais c'est ce qu'il faudrait faire, quoi. Tu prends un coach en sachant pourquoi est-ce que tu le prends et du coup, qu'est-ce que lui pourra t'apporter comme chose, quoi, en gros, quoi. Plutôt que dire je prends un coach parce que je prends un coach. Non, tu vas réfléchir au coach que tu as envie qui va te correspondre, en fait, en gros. Et je voulais rebondir sur quelque chose aussi. J'ai oublié ce que je voulais dire.
Ça reviendra sûrement en écoutant tes collègues parler. Vas-y, François, et après, si à tout moment, interromps pour refaire ton point quand ça te revient.
J'ai encore rebugué la question exacte. C'est
non, reparti sur autre chose. Comment tu prémâches ton.
Ah, qu'est-ce qu'on a, okay.
Avec une préparation à l'avance, quoi, pour ton.
Ouais, c'est ça. Bah, soit tu viens directement avec des spots qui te posent problème.
Donc, tu sélectionnes demain qui te pose problème, par exemple.
Par exemple, mais après, la plupart du temps, il faut que le coach il fasse une review de tes stats ou ton jeu, toujours, en fait, c'est quasi toujours. Sauf si tu joues déjà bien, bien cher, que ça a été fait, refait. Ouais. Et même, ça fait jamais de mal de se faire. Moi, je sais que je review mes propres stats tous les mois. Là, je ne l'avais pas fait pendant quelques mois, j'ai refait récemment. Je me dis, putain, mais pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt? C'est toujours pareil. En fait, tu perds des. Il y a tellement de trucs différents.
C'est ça aussi. Hein,
que si tu ne répètes pas régulièrement. Mais du coup. Du coup, ouais, c'est ça. Soit tu viens avec une idée, mais même si tu viens avec une idée, de toute façon, le coach, il est bon, il va trouver d'autres spots où bosser, c'est quasi sûr. Tu crois, c'est toujours pareil que tu me disais tout à l'heure, tu penses avoir des leaks, mais tu en as toujours plus que ce que tu vois, puisque sinon, ça ne sert à rien. Le coach, il t'aide pas à voir aussi où sont tes leaks en plus. Et voilà, ouais.
Ok, Chichi.
D'accord avec tout ça. Après, voilà, là on était un peu. Il y a deux types de coaching. Il y a le coaching vraiment de perfectionnement, on va dire, vers l'élite. Et là, c'est différent parce que déjà, l'élève, il a une compréhension très très bonne du jeu, etc.
Ouais, on parlait pour moi.
Voilà, là, c'est différent. Après, sur le coaching plus général, le premier point, c'est à mon sens, au début, le travail du coach, c'est de mettre en lumière les plus gros leaks, justement. Alors, certains, on en a conscience, d'autres évidemment, non, parce qu'on a un regard trop subjectif sur notre jeu et aussi sur nous-mêmes. Après, le deuxième point, oui, c'est ce qu'a abordé François, c'est travailler aussi beaucoup à côté, puisqu'en fait, le coach, il est là pour te donner des clés. Après, derrière, ça va être à toi de les utiliser et de faire un travail de fond, que ce soit après la session, mais aussi en préparation de la session d'après. Tu n'arrives pas à une séance les mains dans les poches. Et ensuite, le dernier point, c'est qu'il n'y a pas de questions bêtes. Il ne faut vraiment pas hésiter. Si tu as une question, mais quelle qu'elle soit, pose-la. De toute façon, on s'en fout si c'est une question de merde. Ce n'est pas grave. Si toi, ça te perturbe, tu l'as dans la tête, le coach, il est là pour ça. Et même si il a des mots durs ou quoi, machin, c'est pas grave, on s'en fout. Le but, c'est il n'y a vraiment pas de questions bêtes. Ça, c'est un truc que je répète tout le temps, mais parce que je vois plein de personnes, ou même des fois dans des vidéos, quoi, ils n'osent pas mettre leurs questions parce que peut-être, si, encore, je pense en plus dans des commentaires, des fois, c'est un peu plus compliqué. Mais parce
c'est
que
public aussi. Hein.
Voilà, exactement, c'est public, il y en a d'autres. Mais au final, c'est pas grave, quoi. Si toi, ça te sert, mets ton ego de côté, on s'en fout. Vaut mieux que si tu as une question dans la tête, tu la poses et tu auras ta réponse. Que ça te perturbe et finalement tu n'ailles pas à chercher plus loin, quoi. Donc en plus ça peut accumuler de la frustration. Donc ouais, voilà ce que je conclurais sur ce point là c'est il n'y a pas de question bête, donc faut vraiment 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 pas hésiter, quoi.
Ouais, truc tout con, je sais pas ce que vous en pensez, c'est moi en tout cas quand j'ai eu des coachs à l'époque, c'était vraiment pratique, il me semble, et je crois que pas tant de gens que ça le font. Enfin, si vous pouvez, ce serait une très bonne façon de bosser votre jeu justement autour du coaching, enregistrer votre session de coaching et vous la regardez derrière en prenant des notes. Enfin, ça a une valeur.
Si
imaginons que vous payez votre coach 60-90 euros de l'heure. Pendant que vous êtes focus pendant le coaching, il y a plein de choses qui sont dans le flow de l'action. Vous n'avez peut-être pas le temps de prendre des notes, ça vous déconcentre. Mais quand vous regardez, je vous conseille vraiment de regarder le coaching très vite, soit le soir même, soit le lendemain, à froid. Et là, vous regardez le coaching en prenant plein de notes. Déjà, vous allez vous écouter. Et peut-être qu'en vous écoutant parler dans vos questions, vous allez comprendre plein de choses. Et surtout, c'est comme relire un cours, ou relire un bouquin, ou répéter justement une situation. Réécouter les sessions de votre coach, ça vous fait progresser. progresser de ouf. Et ça, d'ailleurs, petit tips, si des fois vous avez vraiment l'impression de stagner, re-regardez vos coachings d'avant, ou comme l'avait dit François, re-regardez en vous commentant en live votre jeu. Et en général, avec 6 mois d'écart, vous voyez vraiment un gap de progression. Vous vous dites, oula, putain, à l'époque, je réfléchissais comme ça, j'ai vraiment progressé, ça va dans la bonne direction. Et bon, on va dire OK pour le coaching, même si, encore une fois, ça pourrait être un talk à part entière. Comment on fait maintenant, et on va finir sur ça, pour bosser en groupe, essayons vraiment de faire l'effort de nous mettre dans la peau de quelqu'un qui, voilà, il joue des ABI 5€, 10€, il consacre quand même pas mal de temps au poker. Certes, il a tous les outils de communication disponibles, WhatsApp, Discord, Facebook, etc. Mais il a du mal à se créer un réseau. Partons même du principe qu'il a quand même réussi à se le créer. Comment on crée des dynamiques de groupe de travail? Est-ce que vous avez des tips là-dessus, même si je sais que c'est pas évident? Et comment on crée un contexte de progression collective, sachant que ça aide beaucoup pour la motivation, le plaisir, la régularité aussi, de se dire bah, tiens, je bosse telle heure, tel jour avec mon groupe de travail. Mais je vois aussi beaucoup de bonnes initiatives qui finissent complètement par s'effriter, par manque de cohésion, de régularité. Donc comment on pourrait se créer une dynamique de travail efficace en groupe? Vas-y Alex.
Compliqué ce que tu dis, parce que vraiment, sur le long terme, ce que tu as évoqué, c'est vrai, c'est dur à tenir. Enfin, je le vois même à tous les niveaux.
Même à ton niveau, quoi.
Ouais, franchement, ouais. Ça se fait. On échange énormément. L'échange se fait facilement. Mais les groupes vraiment bloqués et tout, avec des créneaux, on a du mal à les tenir à chaque fois, quoi.
C'est plus une question d'organisation, la limite, ou de motivation et d'entente au sein du groupe ?
Non, l'entente, tous les groupes que j'ai eus avaient une très bonne entente. Genre vraiment, j'ai pas eu de problème. On n'a jamais eu de problème entre les joueurs à l'intérieur des groupes et tout. Genre jamais, on s'entend vraiment tous très bien. Et c'est plus la vie de chacun, en fait, quoi. Tu vois, genre même quand on bloque des créneaux, on dit OK, c'est telle heure à telle heure. Ouais. Il y a un gars qui va dire j'ai eu ça. Il y en a un qui va pas le faire. Du coup, si l'autre il vient pas, ça, tu vois, la motivation s'enchaîne pas. Ils vont se retrouver, on va se retrouver à deux à la place de cinq. Et pourquoi est-ce qu'on le ferait pas à deux? Ça se fait pas quand même, tu vois.
Ouais, c'est vrai.
Et après, du coup, mais ça, c'est une erreur. Et ceux qui arrivent à garder ce rythme, ils iront plus loin, clairement, parce que travailler en groupe, c'est des visions différentes. Donc, c'est super important. Le fait de revoir dans un groupe, il y aura des niveaux qui vont être plus ou moins homogènes, mais jamais personne n'aura le même niveau. Donc, il y aura toujours quelqu'un d'un peu plus fort, quelqu'un un peu plus... Enfin, en tout cas, sur certains spots.
Sur certains spots, ça peut être aussi.
Voilà. Il y a des mecs qui vont être meilleurs sur certains spots que d'autres, qui auront vu des choses et qu'on va pouvoir travailler. Donc, on aura des axes de travail qui vont être différents. Il y en a un qui va émettre l'idée sur un certain point, qu'on pourra bosser, etc. Et du coup, travailler en groupe, ça reste quand même super important, je pense. Maintenant, pour répondre à ta question, à part faire quelque chose de comme tout, c'est-à-dire bloquer des créneaux de telle heure à telle heure, pas trop long, parce que je pense que ça, c'est ce qui arrive aussi, c'est qu'à un moment, ça va être démotivant si c'est trop long, les gens vont un peu les perdre. Ça dépend un peu de la charge de travail de chacun et des groupes. J'ai eu des groupes où on pouvait travailler pendant 2 heures et puis d'autres pendant 1 heure, c'était beaucoup trop, quoi, par exemple. Qu'est-ce qu'il peut y avoir?
Peut-être du coup limiter au début, dirais que essayer de vous faire un groupe de 2-3 justement pour éviter ces frictions.
C'est important aussi, je pense.
Quitte à commencer petit mais solide et avec une grosse cohésion, qui est un noyau dur de 2 personnes ou 3, et après peut-être se grefferont des gens. Alors que les gens, j'ai l'impression des fois ils voient trop gros. Moi je vois souvent ça, ils veulent construire un groupe de 8 joueurs d'un coup.
Non. Après si c'est trop.
Même... Moi, j'aime bien ce principe de 3-4 joueurs, peut-être 5 grand max, quoi. Et pourquoi pas faire venir de temps en temps un joueur étranger, pas dans la nationalité, étranger au groupe, qui intervient de temps en temps et qui vient donner son œil extérieur, quoi, tu vois. Ça, c'est quand même, je trouve, super cool. Et en tant que guest, en vrai, le mec, il arrive et soit il montre lui un de ses travails, ou au contraire, il réagit à ce que nous, on a fait. Les deux fonctionnent. Et après, par contre, regarder un peu ce noyau. Et de temps en temps, bien évidemment, sortir de ce groupe pour... Mais par contre, ça, il faut le faire, genre, je pense, en fréquence très faible, de demander l'avis externe à d'autres groupes ou à d'autres personnes, parce que sinon tu peux vite avoir, parce que le poker, il n'y a pas de réalité, quoi. On sait, enfin, aujourd'hui il y a des choses qui sont vraies, mais il y a plein de choses qui peuvent différer du spot, suivant plein d'autres paramètres. C'est la beauté de ce jeu. Mais du coup, c'est important de ne pas trop se perdre à demander trop d'avis non plus. Ça, je pense que même si on a la capacité de synthétiser, de prendre la part de faire la part des choses, etc., tout le monde n'est pas capable de le faire déjà. Et pour ceux qui le font, à un moment, bah, si tu as trop d'informations, ça te permettra de... Ah oui, ce que je voulais dire tout à l'heure sur le coaching, qui est important aussi, je pense, c'est que quand on est coaché, on s'attend à avoir des résultats tout de suite.
Ah oui.
Et j'ai envie de dire, c'est avec le contraire presque. On va avoir des résultats qui seront moins bons, en fait, parce qu'on va mettre des choses en place qu'on ne maîtrisera pas.
Notre jeu se désolidifie un peu parce qu'on bouge des choses, c'est ça que tu dis?
Exactement, exactement. Et du coup, ça va mettre du temps plus ou moins important par rapport à notre charge de travail, par rapport à notre personnalité, par rapport à plein de choses. Mais en tout cas, on risque de perdre de l'argent dans les spots qu'on ne connaît pas, c'est évident, en fait. Mais par contre, là où on perdait moins d'argent ou qu'on en gagnait moins, et ben on en gagnera plus sur le long terme si notre coach est bon et si il a bien appuyé sur les leaks. Voilà,
Ah,
c'est ce que je voulais dire tout à l'heure.
ça c'est
Je pense
sûr,
que
ouais.
ça
Et puis
te
même,
suffit.
ok, bah du coup, travail de groupe. Ouais, moi j'ai essayé de tenir des fois des groupes. Enfin, non, pour revenir déjà, je repense à ça tout à l'heure. Quand on disait groupe de 8, là, clairement, quand le groupe il est trop gros, après ça dépend quel travail tu fais. Si c'est un mec qui vient présenter son travail, c'est un peu différent. C'est un peu comme s'il y avait un coach et que les 3, 4, enfin je sais pas combien de plus, ils réagissent. Là, ça va. Mais si tu veux faire une review d'un tournoi, par exemple, et même être 5, c'est déjà trop, hein. 4-5, des fois, c'est. Tout le monde veut donner son avis à un truc à rajouter, des fois, et ça peut être vraiment compliqué. Donc, je ne pense pas que ce soit idéal si tu pars par des reviews. Après, si tu pars par un mec qui a fait un taf, qui te l'amène et on le bouffe ensemble, enfin, il le partage, c'est un peu différent. Mais dans tous les cas, 8, bah, sauf s'il y a vraiment. Enfin, sauf s'il y a un coach, quoi. Sinon, je sais pas si j'ai grand-chose à ajouter.
Bah,
Si c'est un
Bosser
groupe,
si
en
c'est
groupe,
si
ouais.
c'est un groupe de 8, on peut ce qui est
Couper.
faisable, mais c'est compliqué, c'est de faire de tourner, en fait. Tu fais trois éléments qui sont moteurs et le reste qui ne participe pas, bah, qui écoute en tant que spectateur. Et la semaine d'après, bah, ça change, quoi.
Ouais.
On peut procéder comme ça. Mais sur le papier, ça fonctionne, quoi.
Parce que le groupe de 8 a un avantage, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, évidemment qu'il y aura des sessions régulières où on va dire, allez, on se colle une fois par semaine tous ensemble ou deux fois par semaine. Mais c'est aussi l'idée d'avoir un outil d'échange écrit où on est content le soir de rentrer de son boulot pour des joueurs amateurs ou quoi et d'avoir un Discord où il y a plusieurs mains postées, il y a des
Bien
échanges.
sûr.
Ça permet d'entretenir le plaisir, la motivation et l'écosystème, entre guillemets. Beaucoup de gens disent, ouais, mais je suis tout seul, moi je connais personne au poker. Bon, ça aide pas trop, on a l'impression de ne pas partager sa passion, ça joue énormément. Alors qu'avec ces outils-là, ça c'est un avantage d'être peut-être un peu nombreux, 5 ou 8. C'est quand même à partir de 5-8, si le groupe est dynamique, bah c'est cool, on a tout le temps, puis à la pause entre midi et 2, j'ai pas mal de gens sur Kill Team, ils sont au boulot, ils refreshent leur Discord, WhatsApp ou quoi, et poum, il y a des mains, ça leur donne envie de jouer, ça leur donne faim, ça leur remet les pendules à l'heure. Quand on badrun, ça soutient. Donc vas-y Alex, je vois que tu veux.
Et tu auras moins le problème de il n'y a personne la semaine, quoi. C'est-à-dire que si tu as un
Oui,
groupe de
c'est
8,
vrai.
ben, tu auras 5-6 personnes au final qui seront peut-être présentes, donc ça sera déjà cool. Et si jamais chacun son tour prépare un travail en amont, ben, au final, ça te fait bosser toi de ton côté sur un truc bien en profondeur, mais ça te laisse du temps pour pouvoir le représenter pour l'après. Donc ça ne devient pas forcément une contrainte, tu vois, de dire je le fais à fond et tout, et ça dure sur le long terme. Et ça change, en fait. Chaque personne le fait, chacun son tour. Donc c'est aussi ça a des avantages, c'est sûr.
Chichi, qui n'a pas encore pu s'exprimer sur ce sujet crucial de l'entourage.
Ouais, je suis assez d'accord sur le fait que bah tu peux pas avoir un énorme groupe. C'est compliqué. Déjà, même un petit groupe, ça peut être compliqué parce que autant au début, quand tu te connais pas, tout le monde va partir. Enfin, tout le monde va être ultra motivé, etc. Être en mode on bosse que le poker, puis au fur et à mesure, commence à y avoir des vannes, etc. Donc tu travailles de moins en moins, tu délires de plus en plus. Donc ça, des fois, ça peut dévier un petit peu là-dessus. Donc je pense que c'est bien, ouais, d'essayer d'avoir des créneaux. Je sais pas, à chaque début de semaine, on se dit bon les gars, là, on va travailler au moins une fois dans la semaine. Ou alors après, il y a les groupes, ça va être un peu, bah, on poste une main, on attend l'avis des autres, et puis du coup ça, tu travailles un peu tout le temps, pas focus, on va dire, des sessions genre de 2 heures d'un coup. Mais tu as toujours des réflexions qui s'enchaînent et des fois tu as un thème qui peut popper au milieu sur. Donc là-dessus, ça va dépendre des gens. Mais en fait, c'est compliqué de donner une façon de faire parce que clairement, on sait tous que l'échange et dans le poker, c'est ce qui te fait le plus progresser, c'est le plus important. Surtout que tu vas avoir des visions différentes, hein, parce que tu vas avoir un mec qui va, il va bosser à fond PO. Donc tu vas en prendre un peu. Tu vas être un mec qui va être au contraire à fond sur les exploits. Donc tu vas apprendre un peu, tu essaies de prendre un peu le meilleur de tout le monde. Donc ça, c'est clairement très important. Mais vraiment le structurer à fond, etc. je trouve que c'est pas si simple que ça. Entre guillemets, le construire, je trouve que c'est le plus simple.
Ouais,
tout maintenant à notre époque, hein, parce que voilà, tu peux aller sur des Discord, tu peux aller sur des forums, tu vas trouver. Puis vraiment,
tu postes. Ouais.
Ouais, tu vas trouver. Après, en avoir un qui est sérieux, etc., il faut un petit peu, souvent, par exemple, si tu es un groupe de 5, il y a un élément qui va partir, il y en a peut-être deux, tu vas peut-être te faire déjà un pote, c'est déjà très bien, et tu vas être sur la même longueur d'onde, mais ça va se construire un petit peu progressivement. Et,
Puis il y a les égos aussi, tu vois. Le mec, tu vois une main d'une certaine manière, comme on dit, il n'y a pas de vérité, quoi. Tu vois une main d'une certaine manière, l'autre qui va te la voir complètement différemment. Et bah, les deux ont raison ou les deux ont tort, c'est comme on veut, mais du coup, ça peut faire des gros débats. Donc quand on est 8, ça, c'est compliqué à gérer aussi, quoi, clairement, quoi.
Ouais, et puis il peut y en avoir un qui bad run à un moment, ça plombe un peu le groupe, et personne, enfin, t'ose pas brague ou féliciter un tournoi.
Il va être moins écouté, ça c'est très très vrai aussi, c'est assez fou d'ailleurs, mais genre quelqu'un qui a pas de bon résultat.
On se dit qu'il est pas bon alors que juste il bad run, c'est ça que tu veux
dire? Bah ouais, ça arrive très souvent,
c'est sûr et certain. Au sein du groupe, d'accord.
Et alors que genre juste le mec est peut-être encore meilleur qu'avant, sûrement même, et juste il run bad, et du coup, et il va y avoir ce syndrome où il va là aussi, où la personne peut se poser la question de savoir est-ce que lui il est légitime, est-ce que le regard des gens, enfin tu vois, il y a plein de choses qui vont rentrer en considération, et ça c'est pour ça qu'avoir un groupe sain, et je pense que c'est bien de poser les bases dès le début là-dessus, c'est super important vraiment, quoi.
Tu veux dire qu'on est tous plus résultat-orientés que ce qu'on croit. Non, même à très haut niveau, j'ai l'impression que...
Ça l'est, c'est sûr. À moindre échelle,
ouais,
mais c'est
vrai,
évident.
Vous rigolez tous, moi, je n'ai pas cette expérience, évidemment.
Ah, si, il y a toujours
à moindre échelle, mais c'est évident. Quand tu gagnes, tu vois, moi, je sais que quand je commence à coacher des gens, genre, parce que j'essaie de créer le groupe le plus sain possible et, avec les mecs, quoi. Et surtout, je leur dis toujours, quand vous gagnez, vous n'êtes pas les meilleurs et quand vous perdez, vous n'êtes pas les plus nuls. Je commence vraiment mon groupe comme ça, quoi. Parce qu'on voit vraiment très souvent des gens gagner et penser que ça y est, ils ont fini le jeu, et au contraire, des gens perdre et penser qu'ils sont vraiment très, très mauvais, quoi.
De toute façon, la meilleure façon de juger le niveau d'une personne au poker, c'est d'écouter ses réflexions sur...
Ou de le voir objectivement jouer, quoi.
Voilà. Après, clairement, un bon joueur, il sera forcément gagnant, mais en MTT, ça va être encore... Mais l'écart de la variance...
MTT Live, ça va prendre du temps, hein, t'imagines?
Oui.
Quand même.
Non, un
MTT Live,
ça c'est le gros débat.
Au global, pour moi, un bon joueur sera forcément gagnant, mais après la variance va faire qu'il pourra être très 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 gagnant ou seulement gagnant. On le sait tous que ça peut avoir un impact différent. Par contre, la réflexion, là par contre, il y a pas débat. Quand tu discutes avec quelqu'un, tu vas très rapidement voir s'il a une bonne compréhension du jeu, où il se situe, etc. Et ça fait la diff.
Faire attention, comme disait Alex, que le mec il peut parler à froid. Moi j'en ai vu plein quand j'étais pro.
Bien sûr.
Tu dis, le mec est monstrueux, tu le vois jouer, tu fais mais il fait n'importe.
Ouais, mais ça c'est pas très grave parce que
dit, quoi. Donc, c'est un problème, certes, mais.
Bah en fait pour moi c'est pas vraiment un problème quand t'es dans un groupe de travail parce que en fait tu t'en fous parce que toi ce que tu as envie qu'il t'apporte, c'est sa réflexion à froid, parce que
ça,
toi, tu vas...
Qu'il te fasse réfléchir et tout.
Voilà. Donc, en fait, dans un groupe de travail, oui, on en connaît tous, hein, des gens qui sont extrêmement forts comme ça pour discuter des spots, etc. Et par contre, in-game, ils n'y arrivent pas. Mais bon, sur le moment-là, toi, ce que tu veux, c'est progresser. Et il va peut-être t'apporter énormément. Et bon, malheureusement, peut-être pour lui, il faudra qu'il fasse un travail mental plus approfondi pour s'améliorer lui-même. Mais la réflexion à froid, ouais, c'est... Là-dessus, tu peux pas tricher quoi sur ta réflexion du poker. Tu vas pas, tu pourras peut-être tricher sur un spot parce que tu l'as vu ailleurs et que tu as vu la réflexion quelque part. Mais dans ta compréhension globale, y a pas de variance en fait.
Et surtout, ne pas faire l'erreur de penser qu'un joueur qui est moins fort que nous ne nous apportera rien. Ça aussi, c'est...
Bah, en coaching, un élève t'apprend énormément.
J'allais dire, coacher, ça aide trop à prendre.
Ouais, il va te poser des questions que toi, tu te posais peut-être plus. Il va te poser une question que toi, tu disais le truc, il est acquis. Puis finalement, tu vas creuser un peu parce que tu veux bien lui répondre. Et tu vas dire, ah, finalement, là, j'avais peut-être été trop vite ou quoi. Donc, ouais, bien sûr.
Ou il fait une line que tu n'aurais pas forcément fait. Tu dis... Qu'est-ce qu'il fait là? Et après, tu dis, ça peut peut-être être pas mal dans ce spot-là en particulier. C'est marrant, ça, des fois.
Eh bien, écoutez, messieurs, merci beaucoup. On approche des 2 heures, là, donc on va s'arrêter là, même si ça aurait pu prendre plein de bifurcations. Vraiment, je vous invite, à vous tous qui avez suivi la vidéo, à l'écouter encore et encore. Et pour le coup, appliquez un peu ce qu'on a dit, prenez des notes. Et s'il y a un truc à retenir, il y en a des tonnes, mais vraiment essayez de passer à l'action. Arrêtez de
passer à l'action.
Changer des choses. Moi, je dis tout le temps dans la masterclass, progresser au poker, du coup. J'ai toujours progressé, c'est changer. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut que vous changiez des choses dans votre façon de progresser, de bosser votre jeu, de vous entourer et tout. Si vous restez juste dans la théorie, dans le blabla, dans des choses décousues, ça ne marche pas. Donc, je vous invite vraiment à changer, à passer à l'action, à prendre des notes.
N'ayez pas peur de poser toutes vos questions.
C'est ça.
Et pas... Vas-y.
Et aussi, s'il y a des, si technique ça va, pas oublier de bosser son mental, on n'en a pas trop parlé, mais
C'est
ça
pour un
peut
autre
vraiment
talk.
faire des. Oh, d'accord, ok. Bon, bah, ce sera pour
C'est
le
pour
prochain
ça.
talk. Hein.
Carrément. Je te réinviterai au
Mais
Slam, et d'ailleurs.
n'oubliez pas le mental.
Ouais, d'ailleurs, pour conclure, suivez absolument tous les invités ici, évidemment, sur Twitter. Mais François, c'est très chouette. Tu fais, je sais pas si tu vas le faire tout le temps, mais tu fais un bilan de tes objectifs, de
Bah
tes
là, je.
choses.
Ouais.
C'est très motivant. J'imagine que même toi, ça t'aide à rester peut-être un peu
Bien sûr.
discipliné, te sentir redevable disons, de ton organisation et ton planning. Donc suivez tous ces gens-là. J'encourage du coup aux gens aussi à aller voir le système qui t'a beaucoup aidé, PMS. Je connais un
Moi,
peu
ça
Laurent
m'aide
qui l'a
beaucoup
créé.
aimé
C'est
Poker
très bien
Management
ce qu'il fait.
System.
Exactement. Alex aussi, on peut te suivre sur les réseaux sociaux, aller voir ce qu'il fait. On vous souhaite à tous, en tout cas à tous les deux. Chichi, a priori, tu vas pas faire les WSOP en
Là,
intégralité.
cette année, c'est pas prévu.
Mais il y a Vegas qui arrive. Donc, tu interviens aussi chez Step Up, dont on a fait une review avec Julien Pérouse, si je dis pas de bêtises, hein, Alex.
Ouais, un petit peu moins en ce moment, mais ouais,
Un peu moins
j'ai
souvent.
été. Ouais.
Ok. Mais je sais que tu as un très bel quand même éthique de travail et environnement poker. Je vous souhaite good luck à tous. Et puis, n'oubliez pas, hein, pour finir la vidéo, que la promo sur la masterclass Progresser au poker, du coup, c'est moins 30%. Ça finit ce dimanche 5 juin à minuit. Donc, si vous voulez en profiter, il y a tous les liens dans la description. On vous dit à très vite pour un autre talk. Mettez vos suggestions, vos questions dans les commentaires. On y répondra. Ciao, ciao tout le monde.
Merci, ciao tout le monde.
Ciao, ciao.
Ciao.
Ciao.